Et je vais vous faire passer le micro, si vous voulez, donc, en quelques mots, vous présenter, notamment dire de quelle compagnie vous venez, puisque j'ai vu qu'il y a des gens de la compagnie de Metz. Donc, en quelques mots, la spécialité dans laquelle vous œuvrez. Donc, je vous fais passer le micro, puis vous le passez de l'un à l'autre, de manière à ce qu'on fasse un peu connaissance.
Bonjour, Christian Lefebvre, expert dans la compagnie de Metz dans les domaines VRD, génie civil et gestion de projet.
Mario Spanu, expert à la compagnie de Metz, bâtiment, VRD et urbanisme.
Bonjour, Gilles Hubert, je suis expert à la cour d'appel de Metz et ma spécialité est le génie thermique et climatique.
Jean-Roger Vialard, expert indépendant en valeur vénale dans le secteur immobilier.
Quelle compagnie ?
Reims.
Oui. Oui, Bernard Lefebvre, expert de la compagnie de Reims pour ce qui est le bâtiment et les travaux publics, surtout le bâtiment, et accessoirement vice-président de la compagnie de Reims.
Bonjour, Hubert Arnoux, expert près de la compagnie de Reims, ingénieur conseil en construction aéronautique et transport aérien.
Rachan, expert en bâtiments travaux publics, plutôt en grosses œuvres structures à la compagnie de Reims.
Fourel, architecte en profession libérale, expert bâtiment, la compagnie de Reims.
Bonjour, Gilles Cyril, donc compagnie de Reims et génie électrique, électrotechnique.
Gilles Gruson, compagnie de Reims, spécialité industrie, mécanique et machine agricole.
Jean-Marc Texier, compagnie de Reims, expert bâtiment.
Bruno Françoise, compagnie de Reims, expert bâtiment, gros œuvre structure.
Claude Barnet, compagnie de Reims, géomètre expert, donc délimitation bornage.
Colette Yon, avocat et spécialisé en droit immobilier.
Le droit immobilier était peut-être en salle Clotilde, si...
Non, construction.
D'accord. Non, mais bienvenue.
Francis Bréville, compagnie de Reims, expert en automobile.
Gamory, compagnie de Reims, spécialité en automobile.
Daniel Allais, compagnie de Reims, automobile.
Tous les trois ensemble. Hein.
Donc Christophe Prévost, incendie explosion, prochainement je l'espère, expert auprès de la Cour. Et membre de la compagnie, peut-être. Merci.
En fait, vous déposez un dossier pour être inscrit, c'est ça ?
Jean-Michel Ocard, avocat à Paris et spécialiste en droit immobilier, construction également.
Jean-François Jacob, Aix-en-Provence, ingénieur ETP, spécialité piscine.
Ah, vous venez d'Aix-en-Provence.
Bonjour.
Bravo.
Christophe Genin, membre de la cour d'appel de membre de la compagnie de Reims, expert en sylviculture, expert forestier.
Gérard Collin, expert incendie et explosion aux compagnies de Reims.
Rudy Sommer, compagnie de Reims, expert explosion, incendie explosion.
Christian Duc, compagnie de Rion dans le 63, expert en accidentologie routière.
Merci. Jean-Bernard Join, compagnie de Reims, informatique et réseau. Je gère également le site internet de la compagnie et j'appartiens à la CNEGITA, qui est une compagnie nationale d'experts en informatique.
Daniel Regnault, architecte, compagnie de Reims, bâtiment,
Denis Comte, bâtiment, compagnie de Reims.
Alain Druitte, compagnie de Reims, VRD et réseau public.
Patrice Baudouin, compagnie de Reims, bâtiment, architecture intérieure.
Jacques De Bruyne, Reims, gros œuvre, structure, architecture, ingénierie.
Jean-Pierre Bréard, compagnie de Reims, mécanique, électricité, incendie, énergie renouvelable.
Joël Godefroy, architecte, compagnie de Reims, bâtiment, urbanisme.
Daniel Marien, architecte, compagnie de Douai.
Antoine Morel, avocat à Reims.
Mm-hmm. Anne-Sophie Farine, avocat à Troyes.
Daniel Weber, avocat à Troyes.
Françoise Sichler-Guestin, conseiller d'État, président de la Cour administrative d'appel de Nancy. Je profite d'ailleurs du fait que je tiens ce micro pour rappeler que la Cour administrative d'appel a mis en place la possibilité pour les experts qui le désireraient de demander à pouvoir être inscrits sur les listes auprès de ces cours administratives d'appel, que vous trouverez, si vous le voulez, sur le site de la Cour, le dossier utile pour ce faire. Je le dis parce que je crois que ça a été, on a lancé l'opération il y a quelques mois et je suis un peu étonnée du petit nombre de dossiers que nous avons reçus à ce jour. Il faudra quand même qu'on les examine avant de faire la liste qui doit être en principe faite. Elle ne sera pas définitive, elle sera complétée chaque année, bien sûr, mais pour le début de l'année prochaine. Donc voilà, je vous rappelle que la procédure est en route. Et vous trouverez sur le site de la Cour administrative d'appel de Nancy tout ce qu'il faut, un dossier, le dossier réglementaire pour vous faire la demande d'inscription. Merci.
Alors justement, Madame la Présidente, il y a une petite ambiguïté qui est apparue dans ces dossiers. Certaines informations qui arrivent au niveau des experts nous imposent de produire une attestation de formation à la justice administrative. Or, plein d'experts ont déjà travaillé sur des expertises pour les tribunaux administratifs. Est-ce que ces experts sont également obligés de produire une attestation de formation à la justice administrative, compte tenu que leur expérience fait qu'ils devraient être dispensés de cette attestation, non ?
Vous me prenez de court, d'autant plus que je me suis levée vraiment très 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 tôt pour venir ici. Certaines formalités sont indispensables et en particulier, on a décidé que les dossiers tardifs ne seraient pas examinés cette année, par exemple. Il n'y a pas de règles, mais on appliquera les mêmes règles qu'en procédure juridictionnelle. Un certain nombre de choses aussi sont indispensables, qui est que le fait que vous soyez inscrit ou domicilié dans le ressort de la Cour, parce que j'ai eu des dossiers d'experts de la France entière à qui on a tout de suite dit non merci. Ces documents-là seront utiles à l'examen des dossiers, bien sûr, mais comme d'habitude, on regardera les choses concrètement. Et s'ils peuvent être remplacés par la preuve, si je peux dire, la preuve, je ne veux pas parler non plus employer des mots trop du langage juridique, bien sûr, de nos procès, mais si on peut avoir l'assurance qu'effectivement les experts qui veulent s'inscrire ont une expérience, ce sera toujours, elle sera prise en compte.
D'accord.
D'accord. Bon. D'autres, pas d'autres.
Non, pas d'autres questions.
Merci.
Marc Dupont, cour d'appel de Douai, expert en automobile. Expert spécialisé dans l'étude et l'analyse d'accidents graves de la circulation.
Mmh. Nathalie Fèvre, présidente du tribunal de grande instance de Troyes.
Je ne me présente plus.
Non, c'est pas vrai. Merci. Donc, le tour de table, c'est pas un tour de table, c'est plutôt un tour de salle, démontre en fait que on a plein de spécialités dans cet atelier. La première chose qu'on voudrait, c'est attirer l'attention sur les trois grands types d'expertise, dans le Code de justice administrative, il y a plein d'articles qui sont résumés dans le fascicule que vous avez récupéré à l'entrée. Hein. De même, les expertises en procédure pénale font également... Alors, au niveau des expertises en procédure pénale, on est soumis en tant qu'expert à produire un devis. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est missionné, que ce soit par un magistrat ou par un gendarme ou un policier, on doit évaluer ses frais d'expertise, établir un devis, l'envoyer, hein, et on doit attendre l'acceptation de ce devis pour démarrer nos opérations d'expertise. Je le rappelle parce que quand on ne fait pas tout ça, on se retrouve en fin d'expertise avec des notes d'honoraires qui peuvent être soit diminuées, soit contestées, et on va au-devant de problèmes. Je pense que les gens qui ont dû faire des expertises dans la salle peuvent en témoigner. Quelles sont les personnes, quels sont les experts qui ont déjà fait des expertises en pénal? Voilà, donc, très peu. Oui.
Oui, relativement au devis qui est produit préalablement à l'expertise, vous dites qu'on obtient une réponse du magistrat.
Oui.
Cette réponse, on ne l'obtient pas toujours. Que faire?
Eh bien, il faut contacter le magistrat, parce que de toute façon, même si vous êtes missionné par un gendarme ou par un policier, suivant que vous êtes en zone gendarmerie ou en zone commissariat de police, vous savez quel est le magistrat qui instruit le dossier. C'est soit un juge d'instruction, soit un substitut, soit le procureur lui-même. Mais de toute façon, vous connaissez les coordonnées et le nom du magistrat. Donc, vous le contactez en direct et il doit, moi je le fais par fax, et je reçois le fax en retour avec la signature du magistrat et un fax signé. C'est un document que vous mettez en annexe dans votre rapport et c'est l'acceptation de votre devis. Hein, c'est clair. Donc, je suis désolé, mais moi je procède comme ça.
C'est pas tout à fait la question que je posais. Lorsque toute cette procédure est respectée, c'est-à-dire que le devis est envoyé à l'adresse du magistrat que l'on connaît et qu'aucune réponse ne parvient, que faire? Et faut-il prendre son téléphone, appeler le magistrat au moment où il sera disponible?
Oui, vous appelez. S'abstenir. Tout à fait, vous appelez et puis en plus vous prévenez l'officier de police judiciaire qui vous a missionné en lui disant que l'expertise est en attente de l'accord du magistrat qui a besoin de cette expertise. Et le magistrat doit accepter ou refuser votre devis. C'est clair. Mais c'est la procédure. Hein. Je crois que... je ne sais pas comment ça se passe à Douai, mais à Troyes, ça se passe comme ça, et je vous assure que ça se passe très très bien.
Ça dépend beaucoup des TGI, en fait. Hein. Il y a des TGI qui fonctionnent très bien, et des TGI qui sont des grosses machines, on n'a jamais le retour du devis.
Oui, mais attendez le retour, hein, parce que derrière, si votre devis n'est pas accepté, ça pose de gros problèmes. D'autant plus que des fois, le magistrat s'attend à un devis de 500 euros, vous lui faites un devis de 5000 euros, vous avez intérêt, là, à attendre son accord. Hein. Voilà, attention. Maintenant, quand c'est des petits montants, c'est pas... Quand vous êtes en dessous de 1000 euros, ça pose pas de problème. Mais attention à de grosses expertises qui vous occasionnent à vous-même des contacts avec, enfin, des sous-traitances au niveau des laboratoires du CETIM et des choses comme ça, qui, de toute façon, vous impose à avancer ces frais, si derrière votre devis n'est pas accepté, ça vous met dans une situation très précaire. Hein. Alors, attention, c'est la procédure, il faut la respecter, c'est tout. Hein. Je pense que, moi, je sais que dans beaucoup de juridictions, ça se passe très bien. Hein. Alors, je ne sais pas, à Douai, oui.
Merci. Oui. Simplement... Votre description de la procédure est intéressante, mais se heurte à la réalité quotidienne.
Oui.
quand vous avez un OPJ qui vous dit voilà, j'ai une personne qui est accidentée du travail avec un décès et il faut que vous veniez là sur place tout de suite, le devis, bon, ça c'est un problème. Deuxième cas de figure dans lequel il est impossible de faire un devis, c'est lorsque vous ne vous êtes pas rendu sur place. Comment voulez-vous normalement faire un devis quand vous ne savez même pas de quoi il s'agit? Parce que quand vous lisez les missions qui vous sont données, en général en catastrophe, par le procureur, ou bon, vous savez qu'il y a eu un accident, qu'il y a eu une personne qui est décédée, vous savez où ça se trouve, donc vous pouvez éventuellement évaluer vos frais de déplacement, mais pour le reste... Moi, je ne sais pas faire un devis tant que je ne suis pas allé au moins une fois sur place.
Alors, tout à fait, vous avez raison de soulever ce problème. Alors là, c'est très simple, hein, vous faites un devis provisoire. En attendant d'avoir les éléments pour faire le devis définitif, sous-entendu, vous faites votre devis déjà pour faire votre déplacement. Vous faites votre devis pour les heures, parce que ça, c'est quand même... Vous pouvez quand même les évaluer. Donc, vous faites un devis provisoire en informant le magistrat que, quand vous aurez tous les éléments, vous pourrez faire votre devis définitif. Et dans ce cas, le magistrat doit vous accorder déjà, doit vous donner son accord pour ce devis provisoire et doit renouveler son accord quand vous aurez fait votre devis définitif. C'est clair, on ne peut pas engager des frais importants. La procédure, elle est précise. À nous de la respecter. Et c'est vrai, vous avez raison, ça m'est arrivé moi également d'être incapable de faire un devis. Mais vous pouvez, et ça c'est très facile à faire, vous faites votre devis provisoire pour pouvoir faire votre devis définitif. C'est clair. Maintenant... Si le devis provisoire, alors ne faites pas un devis provisoire de 4000 euros, faites votre devis provisoire de 500-600 euros pour aller voir, hein, ça on ne peut pas vous le refuser. Puis après, si vous débouchez sur un devis à 10 000 euros, eh ben, voilà, on l'accepte ou on le refuse, et puis c'est tout. Mais au moins vous avez fait votre travail, votre job c'est ça, c'est vous rendre compte, donner l'évaluation de la dépense et attendre l'accord de cette dépense. C'est clair.
À ma première expertise pénale, je ne savais pas qu'il fallait faire un devis. Ah. On me l'a demandé à la réception de ma facture.
Oui.
Mais là, il y a quand même une petite surprise, c'est que pour les frais de déplacement, d'hébergement et tout, on applique le tarif des fonctionnaires.
Oui,
donc
c'est
on
vrai.
M'a réduit de 300 ou 400 euros mon truc. Hein.
Oui. Oui, alors ça,
faut le savoir.
J'ai oublié de vous le préciser.
Parce que ce n'est pas les tarifs qu'on applique les autres circonstances avec ce que nous a donné la compagnie.
Les frais de déplacement, n'appliquez pas vos tarifs de procédure civile dans vos procédures pénales, ça c'est clair. Au niveau du coût kilométrique, c'est un coût kilométrique basé sur la fonction publique. Ça, c'est vrai, y compris pour vos frais de déplacement, nourriture, hôtel, etc. C'est le barème. Alors, quand vous avez un doute, vous appelez le greffe. Hein, vous appelez le greffe en disant, bon, voilà, je sais pas, j'ai un repas, à quel tarif je dois le facturer. Voilà, le greffe va vous donner tous ces éléments. Hein. Alors, pour répondre à votre première question, nul n'est censé ignorer la loi. Sous-entendu, la procédure... Alors, c'est à ça aussi que servent les compagnies d'experts. Quand vous avez un doute, appelez le bureau, les gens du bureau, le président. Enfin, il y a suffisamment de gens au niveau du bureau pour vous donner ce genre d'informations. Appelez-nous, moi ou Patrick... On est là pour vous donner ce genre d'informations, y compris d'ailleurs les tarifs, parce qu'on les connaît, nous, les tarifs. Hein, tarifs du kilomètre, tarifs... Alors, je ne les ai pas en tête, je ne les ai pas amenés avec moi, mais je peux... 35 centimes du kilomètre, voilà. Donc, mais c'est un tarif, c'est tout. Oui, voilà. Moi, j'ai même une 15 chevaux, je suis aussi à 35 centimes du kilomètre. Donc, c'est quelle que soit la puissance du véhicule.
Oui, il faut quand même que je dise juste un petit mot sur ces devis. Depuis 4 ans, 5 ans, le ministère de la Justice insiste, sous la pression d'ailleurs de la Cour des comptes, sur l'examen des frais de justice, et qui représente une part très importante, bien sûr, du budget du ministère de la Justice. Et le budget de fonctionnement des juridictions, en fait, n'existe que soustraction faite des frais de justice. Il y a donc depuis 4-5 ans des politiques de plus en plus contraignantes, c'est vrai, qui sont mises en place pour maîtriser l'évolution des frais de justice. Et la Cour des comptes ne comprend pas pourquoi est-ce que le ministère de la Justice n'arrive pas à être beaucoup plus précise dans ses comptes rendus d'activités statistiques sur la maîtrise de ces frais. Alors, c'est un des avatars mis en œuvre pour parvenir à un meilleur contrôle. C'est effectivement, dans le cadre des expertises techniques, qu'il faut bien le dire, représente la plus grosse partie, la partie en tout cas la plus importante de la dépense, de mettre en place des mécanismes qui permettent d'éviter l'aléa du coût de l'expertise. Et c'est vrai que les OPJ sont invités, comme les parquets, à mettre en place des systèmes de mise en concurrence, ou en tout cas d'établissement de devis, qui sont parfois alors mis en œuvre de façon un peu brutale ou inappropriée. On vous demande un devis et vous dites « mais je ne sais pas de quoi il s'agit », etc. En tout cas, la philosophie, si vous voulez, elle est là, et c'est elle qui conduit à la mise en œuvre de renseignements qui auparavant n'étaient pas demandés en matière pénale, ni par les forces de l'ordre, ni par les parquets, ni par les juges d'instruction, et qui maintenant deviennent de plus en plus la règle, de façon à essayer de mieux maîtriser les frais de justice, qui représentent évidemment des sommes tout à fait considérables.
Oui, je voudrais savoir s'il était possible pour les tribunaux justement de répercuter le prix d'une expertise pénale au niveau des assurances. Parce qu'après tout, pourquoi elles ne pourraient pas prendre en charge une partie de ces expertises-là?
Souvent.
Oui, pour la partie civile, mais pas pour la partie pénale. Et nous, on a beaucoup de devis qui sont refusés parce que les montants sont trop importants. Et on intervient après pour les assurances et on communique du coup nos rapports au parquet. Donc, dans un premier temps, est-ce qu'il ne serait pas possible directement de répercuter le coût aux assurances pour justement gagner cette étape-là?
Ça met en cause le principe même que la justice pénale, c'est l'État qui avance les frais. Donc ce n'est peut-être qu'en fin de procès éventuellement, dans le cadre des dépens ou des condamnations mises à la charge de la partie civile, qu'il peut y avoir des actions récursoires. Mais l'État engage rarement des actions récursoires contre les compagnies d'assurance. Donc les frais d'expertise sont avancés à des tarifs d'ailleurs qui sont loin d'être prohibitifs, puisque c'est quand même les rémunérations les plus faibles des experts, c'est bien en matière pénale, notamment dans les rémunérations tarifées. C'est bien pour ça que les magistrats sont incités donner des expertises civiles aux experts qui travaillent au pénal, de façon quand même à ce qu'ils puissent s'y retrouver, parce que s'ils n'avaient que le pénal, je pense que nous n'aurions plus d'experts.
Alors après, le troisième code de procédure, c'est le code de procédure civile sur lequel c'est la grosse activité des experts, en fait. La chose est beaucoup plus simple, puisque en fait, il y a le phénomène des provisions. Donc, si un expert suit bien sa procédure, demande ses compléments de provision au moment voulu, ça se passe très bien en fin d'expertise, puisque en fait, attention également de pas rester avec une provision très très faible au départ et demander à la fin au moment du dépôt du rapport et la note d'honoraire qui représente des fois 10 ou 15 fois la provision qui a été déposée, parce que on doit au cours et en cours d'avancement de l'expertise annoncer les coûts Et notamment quand on commence à prendre des laboratoires, alors que ce soit en bâtiment avec le CSTB, le CEBTP ou en mécanique avec l'Institut de soudure, le CETIM ou le Laboratoire national d'essai, on a des fois des montants d'analyse laboratoire qui représentent 15 fois le montant de la provision d'origine. Donc, annoncer aux parties, quand on commence à nous demander de faire des essais, annoncer les coûts estimatifs, puis quand les parties sont d'accord, demandez un devis, présentez le devis aux parties, faites accepter votre devis, demandez la provision complémentaire en fournissant une copie du devis au magistrat, de manière à ce que votre demande de complément de provision soit justifiée par justement un devis du CETIM. Vous savez, ayant travaillé beaucoup avec le CETIM, la moindre expertise, la moindre analyse du CETIM, c'est du 4 000 à 8 000, 10 000 euros. Hein, Patrick, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Le CEBTP, le CSTB, c'est pareil. Attention, n'engageons pas des analyses de laboratoire sans annoncer les coûts, parce que souvent, et notamment quand c'est des expertises, et je m'adresse aux experts automobiles, quand c'est des particuliers, on leur dit il faut faire des analyses métallurgiques sur les pistons d'un moteur ou les cylindres, peu importe. Pour eux, c'est du 300 euros. Quand on leur envoie le montant du devis du CETIM et on se retrouve avec un montant de 6 000 euros, attention également, on parle, nous, souvent en industrie, de prix hors taxe. Les particuliers, ils payent des prix TTC. Attention au problème de la TVA. Annoncez bien vos prix TTC, hein. C'est une prudence, mais c'est vrai qu'en tant que professionnel, on a l'habitude de travailler hors taxe parce qu'on travaille avec des entreprises. Tout le monde récupère la TVA, pas les particuliers. Attention. Voilà. Avez-vous des questions sur les procédures civiles, sur les expertises, sur notamment les problèmes de sapiteurs, que ce soit des sapiteurs laboratoires, comme on vient d'en parler?
Je voulais évoquer un problème auquel je me suis trouvé confronté.
Oui.
Qui est d'aller faire des expertises civiles dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, et la Meurthe-et-Moselle et la Moselle. Mmh. J'ai cru me retrouver au pénal ou à l'administratif, puisque les prix d'intervention sont fixés par, je ne sais plus qui, si c'est la préfecture ou le TGI lui-même, enfin, etc. Et on vous propose des prix d'intervention horaire de l'ordre de entre 40 et 60 euros, hors taxe, certes, mais comprenant les déplacements, les affranchissements, le secrétariat, c'est-à-dire comprenant tout. J'ai refusé, maintenant, je refuse de travailler avec ces départements, pour la bonne raison qu'un greffe m'a subtilement distillé dans l'oreille que pour que ma rémunération soit correcte, je n'avais qu'à augmenter le nombre d'heures de mon intervention.
Non.
Je m'y suis refusé catégoriquement. Naturellement, comme je suis resté sur le même nombre d'heures d'intervention que j'avais effectivement réalisé, que ce soit sur place ou dans la rédaction des pré-rapports et des rapports, eh bien, j'ai vu ma note raboter de plus de moitié. Et j'ai décidé que plus jamais je ne travaillerai avec eux.
Bon, alors, l'histoire de compenser le nombre d'heures avec un faible taux, ça c'est inadmissible. Et on a un taux horaire qui est déterminé, comme on l'a dit tout à l'heure, par des frais généraux, par un cabinet qui fonctionne avec des frais fixes, hein, et donc on a un taux horaire. Ce taux horaire, on sait le calculer, et il est ce qu'il est. On ne peut pas venir vous, vous reprocher un taux horaire. Ce taux horaire, vous avez tous les moyens de contacter le magistrat responsable des expertises pour démontrer que votre taux horaire est basé sur un calcul de coût de revient. Hein. Après, on ne peut pas venir vous dire, notamment vous êtes ingénieur de formation, vous le savez, on ne va pas payer un ingénieur 60 euros de l'heure, ça c'est clair. Moi, dans l'industrie, vous savez combien coûte un ingénieur, je suis moi-même ingénieur, il est hors de question qu'on vienne vous contester votre taux horaire, ça c'est clair.
Surtout avec un taux qui comprend les déplacements, qui comprend le secrétariat, qui comprend les affranchissements. D'autant plus que les frais d'affranchissement en ce moment, depuis la dernière loi qui nous oblige à envoyer les rapports en recommandé avec accusé de réception, les frais d'affranchissement, ils grimpent.
Alors sachez que quand un magistrat vous conteste votre note d'honoraire, on a une assurance hein, dans toutes les compagnies, donc notamment la compagnie de Reims, on a une assurance et vous pouvez engager un recours contre cette... Ah oui, mais c'est la procédure. Hein. Si on vient vous contester un taux horaire et qu'on a tous les moyens de démontrer que... notre taux horaire a une valeur, et ça, vous avez, bon, si vous êtes en profession libérale, vous avez un expert comptable de fin d'année qui arrête vos comptes. Avec ce bilan de fin d'année, il est quand même facile de démontrer que vous avez un taux horaire qui n'est pas de 60 euros. C'est clair et net. Bon, donc, c'est à vous. D'engager la procédure puisque on vous conteste votre note d'honoraire, il faut pas rester sur cette contestation, il faut engager un recours et vous avez votre assurance qui va vous permettre de vous rembourser vos frais d'avocat et puis aller devant le magistrat, hein, c'est clair.
J'ai pas de temps à perdre.
Bon, moi, ça, vous faites comme vous voulez, mais sur des contestations, moi, je crois qu'il faut pas se laisser faire, surtout, alors, quand on vous conteste 15, 20 euros sur le taux horaire, c'est pas grand-chose, on peut mettre son mouchoir dessus, mais quand vous êtes à 110 ou 120 euros de l'heure de coût de réel et qu'on vous ampute de 50%, alors là, c'est non. C'est niet, c'est pas possible. Je vous en prie. Oui, ah bon. Alors, oui, là, on va avoir en live une réponse bon. En live.
Oui, nous sommes trois experts de la Cour d'appel de Metz. Donc, on peut donner notre point de vue sur les honoraires. Le régime local nous impose un tarif par ingénieur, technicien, etc.
Oui.
Il n'y a pas un gros écart. En moyenne, là, c'est au niveau de 87 euros hors taxe.
Combien, pardon ?
87 euros hors taxe pour les
mais
ingénieurs.
Mais il est à 60.
Oui, non, c'est pas normal. Non, non.
Ah oui,
non. Et c'est pas normal parce que là, c'est bien basé, bien précis, c'est réglementé. Il sort une circulaire chaque année pour révalariser.
D'accord.
Notre président de la compagnie expert de Metz, qui est médecin dans un autre groupe de travail, d'ailleurs, a fait augmenter ses tarifs parce qu'on était un peu bas par rapport à l'ensemble des autres régions, donc, où les les tarifs horaires sont beaucoup plus élevés. Donc nous sommes tout à fait particuliers. Par contre, les frais sont tout à fait, les bourses sont tout à fait séparés et pris en compte sans souci.
Oui, voilà. Donc...
La Cour d'appel de Metz. Oui, c'est pareil pour Strasbourg et pour Colmar, hein, parce que nous sommes soumis au régime local qui date de l'occupation allemande. Donc nous avons des choses comme ça.
A priori, voilà. C'est illégal hein, de faire un tarif.
Ah oui, mais nous avons ça. Alors, on essaye de négocier pour augmenter ces tarifs et les aligner. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est votre expérience des moyennes de tarifs aussi à la cour d'appel
mais,
de
Reims. Mais ça veut dire qu'un technicien, un ingénieur, oui. tout le monde est au même tarif?
Non, l'ingénieur est à 87, le technicien à 83. Il n'y a pas un gros écart pour l'instant, c'est ça. Et c'est fixé chaque année, et nous augmentait chaque année jusqu'à présent de 1 euro par an. Et puis, on a un peu, avec la présidente de la compagnie des experts, un peu révisé tout ça. C'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, pour savoir ce qui se fait ailleurs. Donc voilà, on va profiter de votre expérience. Mais je corrige parce que je pense qu'il fallait bien négocier. Le tarif est tout à fait légal et il y a une circulaire d'application chaque année. Et donc il faut l'appliquer. S'il y a une erreur, si ça n'a pas été fait pour le cas qui a été signalé. Voilà.
Mais ça veut dire que les cours donc, de cette région, si elles missionnent un expert parisien, l'expert parisien va travailler à 87 euros de l'heure?
Tout à fait.
Vous
tout
croyez
à fait.
Vraiment?
Il va être obligé, oui, tout à fait.
Ben ça m'étonnerait. Hein.
Ouais. Bon. Non, mais c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'experts parisiens qui viennent chez nous.
Oui, oui. Ben, voilà, c'est voilà. possible. Remarquez, c'est une bonne solution aussi
non.
pour.
Donc, je sais par expérience, avoir des confrères parisiens, ils sont plutôt à 150 euros.
Bah oui, voire plus.
On sait très bien. On sait très bien.
Je travaille beaucoup en région parisienne. Ouais. Je peux vous dire que voilà. à 120 euros, on n'est pas cher. Hein.
Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, je voulais préciser parce que nous sommes trois représentants de cette région particulière pour le. Pour les lois locales, voilà.
D'autres questions? Parce que je vois qu'on est sur un sujet sensible.
Moi, je voudrais savoir s'il est possible de déterminer à partir de quel moment l'expert sera en mesure de faire connaître le coût prévisionnel de ses travaux en début d'expertise, puisque c'est ce qu'on demande. Est-ce que c'est parce qu'il faut savoir si c'est dès la première réunion, si c'est après le premier accès dit technique À quel moment, au plus tôt, l'expert peut nous faire connaître le coût prévisionnel
Alors,
de ses travaux?
Madame la Présidente, normalement, quand une expertise n'est pas compliquée par les parties au fur et à mesure de son avancement, hein, normalement, un expert est capable de vous donner une estimation à 20% près à la fin de la première réunion d'expertise. Je dis bien quand les parties jouent le jeu et qu'on ne vienne pas au dernier moment nous sortir des appels de parties supplémentaires, etc. Parce que là, on ne maîtrise plus rien. À un moment donné, quand on est à appeler 4 ou 5 parties au dernier moment, on ne maîtrise plus le coup.
Oui, mais est-ce que c'est la première réunion d'expertise ou la première réunion technique? C'est ça parce que j'imagine que vous devez faire une réunion en gros.
Alors, quelle différence faites-vous entre la première réunion technique et la première réunion d'expertise?
J'imagine que vous devez avoir, c'est peut-être une erreur de ma part, que vous devez avoir une première réunion d'expertise où en fait vous réunissez les parties pour récupérer les documents, faire une première analyse des positions des uns et des autres, et où après vous vous rendez sur place pour vos constatations.
Non.
Vous faites tout en même temps.
On fait tout en même temps. La première réunion d'expertise est une réunion technique. Souvent, cette réunion permet de déboucher sur une demande de documentation. L'expert fait une première note aux parties confirmant par écrit les demandes des documents qui lui sont nécessaires. Mais déjà, quand c'est une partie technique, on va déjà sur place. On va se rendre compte de l'importance des dégâts. On va déjà, et là, on prend conscience, soit c'est une expertise qui va être assez compliquée, qui va nous imposer de prendre des laboratoires d'analyse, des choses comme ça. Alors là, quand l'expertise est compliquée, on aura un peu de mal à vous donner un chiffrage. Par contre, 80% des expertises sont assez simples dans la mesure où les parties ne viennent pas les compliquer à la réception de la note de synthèse. Parce que souvent, la note de synthèse, l'expert dévoile un peu ses préconclusions, je dirais. Et c'est à ce moment-là que les parties peuvent nous compliquer énormément la tâche en nous demandant de faire des analyses, de compliquer l'expertise. Et alors, à ce moment-là, on ne maîtrise plus ni le coût, ni la durée. et je crois que tous les experts qui sont dans la salle peuvent le confirmer pour en avoir l'expérience.
Sur des expertises qui se passent bien, sur lesquelles il n'y a pas de problème, je confirme les 20% à la fin de la première réunion d'expertise, on est capable de vous donner le coût prévisionnel. Par contre, si on est amené, si on le constate à la fin de la première réunion d'expertise, qu'on va être amené à utiliser un laboratoire ou quelque chose, à ce moment-là, il faut attendre au moins la deuxième réunion. Il faut déjà qu'on ait la confirmation que les parties acceptent le travail d'un laboratoire, sachant que personnellement j'informe les parties en proposant toujours 3 labos, en disant que je demande des devis aux 3 labos, que les devis aussitôt qu'ils me parviennent je les communique aux parties de façon à savoir quel laboratoire ils veulent retenir. Et puis bien souvent quand ils ont les devis des laboratoires, ils me disent on ne fera pas d'analyse complémentaire, mais dans le cas où ils persistent avec analyse complémentaire, ça oui, c'est, on peut vous donner le devis définitif comprenant le coût du laboratoire au niveau de la deuxième réunion d'expertise, guère avant.
Par contre, les parties sont informées au fur et à mesure. Hein. Je veux dire que quand l'expertise devient compliquée, les parties vivent l'expertise avec l'expert et ils savent très bien que le délai sera très long et le coût sera important. Ça, c'est sûr.
Mais, moi, je voudrais rappeler que le texte du Code de procédure civile demande au juge qui ordonne l'expertise de prévoir un montant de la provision qui soit la plus proche possible du coût final. Donc, je suppose que c'est dans ce cadre que Madame la Présidente pose la question. Il me paraît effectivement que ça ne peut être qu'au moment de la première réunion que vous avez les éléments au moins objectifs, apparents, suffisants pour émettre un devis approximatif valable. Mais en fait, c'est vrai par la suite. Je pense que c'est surtout du dialogue entre l'expert et les parties que viendront les provisions complémentaires. Mmh. Le juge n'intervient qu'en cas de difficulté. Or, la difficulté, elle vient de quoi ? Soit l'expert n'a pas suffisamment prévenu les parties du montant des provisions complémentaires, et la surprise est mauvaise, soit c'est trop élevé et il y a un refus à ce moment-là. Si l'expert a vraiment besoin de cette somme pour continuer ses opérations, c'est effectivement au juge qu'il s'adresse pour avoir une ordonnance qui oblige la partie demanderesse, la plupart du temps, à payer cette provision complémentaire. Mais les 3/4 du temps, c'est sur votre prévisionnel annoncé en temps utile que les parties, notamment les compagnies d'assurance qui connaissent parfaitement la manœuvre, admettent après, au vu du protocole que vous avez décrit, donnent leur accord pour le financement des provisions successives.
Tout à fait. Mais pour alors, Monsieur le Président, pour revenir sur votre première remarque, il est très difficile aux magistrats, notamment dans l'audience de référé, de déterminer quel va être le montant de la provision, parce que même nous, quand on reçoit la mission, on a donc l'ordonnance de référé en main, on la lit, et ben je vous assure qu'on est incapable de dire si la provision est suffisante ou si, dès le départ, il faut une provision complémentaire.
Bien sûr.
Donc c'est un travail pratiquement impossible parce que on a devant donc le magistrat devant lui lors de l'audience les parties. Des fois, donc, on voit bien les éléments dans l'ordonnance. Avec les éléments qu'il y a dans l'ordonnance, donc, alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, il y a les montants standards. Le montant standard, c'est 1500 euros. Voilà. Donc, voilà, c'est... parce que là, au moins, on peut ne pas se tromper.
Ça peut être 2005, hein. En standard.
C'est souvent 1500 hein, pour l'instant.
Moi, je considère par expérience une expertise simple, expertise médicale, 10 heures. Une expertise moyenne construction, moyenne 20 heures. Complexe, 30 heures. Donc si on part de ça avec des coûts moyens de 180, 120 heures de taux de vacation, on peut quand même déjà, en fonction de la lecture des conclusion des parties, déjà se forger une opinion entre un supermarché dont le toit s'écroule et une rayure sur un parquet dans un pavillon individuel. Ça me paraît quand même pas très sorcier d'imaginer que l'un va durer 10 heures maximum et l'autre plus de 30 heures. Donc à partir de là, je pense déjà qu'on peut augmenter sensiblement le montant des provisions. Après, c'est vrai qu'il y a des rédactions d'ordonnances. À Rennes notamment, il y avait un président qui mettait dans ses ordonnances, qui fixait provisoirement la provision A et qui demandait à l'expert de lui dire le plus rapidement possible, et notamment après la première réunion d'expertise, de lui indiquer le montant plus précis, d'affiner sa prévision. C'est un modèle de rédaction qui me paraît effectivement intéressant.
Je voulais juste ajouter sur ce point que, venant d'Aix-en-Provence, j'ai été surprise, j'avais interrogé M. le Premier Président, qu'il n'y ait pas au niveau de la Cour un barème, on va dire, réactualisé des provisions, justement, en matière médicale notamment, enfin, et en matière aussi technique. Et effectivement, j'ai constaté à mon arrivée à Troyes que le montant généralement fixé au stade du référé était de l'ordre de 1 500 euros, notamment dans les matières techniques du bâtiment. Tout à fait. Et enfin, je pense qu'on se rend très vite compte, dès qu'on a fait un peu d'expertise, y compris au tribunal d'instance, comme c'était mon cas avant, qu'une expertise en bâtiment, même si ça concerne qu'un corps de métier et que les opérations sont relativement simples, on n'est jamais à 1 500 euros, jamais. Donc pour moi, l'idée de dire aux parties, même si je compte sur les avocats pour leur dire qu'une expertise, ça coûte très cher, pour moi, dire aux parties au départ, pour l'expertise que vous demandez, je fixe une consignation à 1 500 euros, c'est un leurre. Et je comprends tout à fait qu'à la première demande d'expertise complémentaire, elle fasse des bons de 2 mètres. Quand on arrive tout de suite à quelque chose qui va avoisiner plutôt les 3 500 ou les 4 000 que les 1 500. Donc j'ai demandé à mes collègues à Troyes, bon maintenant c'est moi qui fais les référés, donc c'est quand même, je suis principalement à la manœuvre, mais ça peut arriver qu'elles soient ordonnées ces expertises aussi au fond ou par mes collègues quand elles sont amenées à me remplacer. Donc j'ai demandé, pour des expertises relativement simples en bâtiment qui concernent, a priori, d'après ce qu'on peut entrevoir dans la demande qui nous est faite, un ou deux corps de métier sur des choses qui apparemment ne sont pas trop importantes, plutôt sur des petites non-finitions, des petites malfaçons, de fixer à 2 500 euros la consignation initiale. Et dès qu'on part sur quelque chose d'un peu plus important, des carrelages, des toitures, des choses comme ça, on est plutôt sur du 3 000 ou du 3 500, c'est ce que j'ai demandé. Voire même récemment, j'ai eu une grosse expertise qui porte sur un site de plusieurs bâtiments, où là j'ai fixé à, je ne sais plus, c'est 10 ou 12 000 euros la consignation initiale. Je pense qu'il faut être aussi réaliste. Et se rendre compte, enfin, si on a un petit peu la pratique, qu'on ne peut pas fixer des provisions qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité de ce que sera même au départ la demande de consignation complémentaire qui sera faite par l'expert.
Ah oui, mais justement, pour abonder dans votre sens, moi je vais vous prendre un exemple. Il y a 5 ans de cela, j'ai été missionné par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc pour expertiser une grue au Congo-Brazzaville et j'avais une provision de 1 500 euros. Le billet d'avion coûtait plus cher. Voilà. Alors bon, mais c'est vrai que quand on reçoit une ordonnance comme ça, on écrit immédiatement en disant bon, minimum 7 000, en dessous, je refuse l'expertise. Vous voyez. Donc, je crois qu'il faut aussi, c'est le rôle de l'expert, de dire immédiatement le montant de la provision ne correspond pas, en amenant bien entendu des éléments. Hein, prendre un billet d'avion Roissy-Brazzaville, les 1 500 euros, c'est pas suffisant. Donc, imaginez le temps sur place. Donc, c'est le rôle de l'expert de tirer la sonnette d'alarme parce que le montant quand on accepte une expertise, on accepte également la provision. Sous-entendu, si on s'aperçoit immédiatement que la provision est insuffisante, on conditionne l'acceptation de l'expertise à une augmentation immédiate de la provision.
L'idée n'étant pas non plus que parce que je mets 2 500 euros, il faut forcément qu'il y ait une demande de consignation complémentaire. Si l'expert se rend compte que son expertise tournera autour de 2 800 ou 3 000, il n'est peut-être pas nécessaire non plus qu'il m'en fasse pour 4 000 ou 4 500.
Hein. Y compris aussi si on a une provision de 2 500 et que l'expertise est extrêmement simple, on peut aussi faire une note d'honoraire de 1 500 euros.
Bien sûr, bien sûr. Mais je pense, je mets un peu la balle dans le camp des avocats aussi. Je pense qu'ils informent. Enfin, l'idée en mettant 2005, c'est pas d'empêcher que l'expertise ait lieu.
Non. C'est d'annoncer la couleur immédiatement.
En tout cas, c'est, je pense, une vision relativement réaliste de ce qu'est le coût d'une expertise, même simple. Je parle en bâtiment, hein, en matière médicale, si on n'est pas sur le même montant, bien sûr, ou même en matière automobile, bon, ce serait peut-être plutôt 2000, mais je me trompe peut-être, mais j'en fais moins.
C'est 1500 aussi.
Oui, non, mais ce que je mettrais moi, ce serait peut-être plutôt 2000, mais peut-être qu'une expertise automobile coûte largement aussi cher qu'une expertise en bâtiment simple, on va dire. Je pense que c'est important aussi. L'idée, ce n'est pas d'empêcher les parties d'accéder à l'expertise, c'est de ne pas créer une fausse idée de ce que va être le coût dès l'origine. C'est-à-dire qu'elles sachent au départ ce à quoi elles s'engagent, en général c'est plutôt des compagnies d'assurance qui payent des protections juridiques. Mais je pense que c'est important aussi que, j'imagine qu'ils le font, les avocats à l'esprit, ils le savent, hein, mais indiquent bien à leurs clients que ça ne sera pas 1 500 euros. Quoi.
Simplement une remarque ou un encouragement, Madame la Présidente, parce que avec les honoraires, il y a un autre paramètre qui sort du sujet d'aujourd'hui, mais qui est le délai. Et à partir du moment où on a une expertise qui semble très compliquée, ne serait-ce que quand vous vous trouvez avec, 20 ou 25 personnes autour de la table en dommages construction, par exemple, entre les experts d'assurance, les assurances, les avocats d'assurance, etc., c'est déjà un casse-tête d'arriver à trouver dans le mois et demi qui vient un rendez-vous qui convienne à tout le monde. Alors, si vous avez l'obligeance, Madame la Présidente, d'examiner avec bienveillance la complexité de l'expertise, essayer d'harmoniser, c'est juste une remarque, le délai qui va avec. Il est clair qu'une expertise très compliquée, on ne pourra pas la sortir en 3 mois ou en 4 mois, surtout en bâtiment, parce que souvent, on a ce genre de délai.
Oui, mais là, c'est pareil, l'expert doit prendre ses responsabilités et annoncer immédiatement, demander des prolongations de délai, parce que on sent très bien quand l'expertise se complique, on le sait, et on voit très bien qu'on va être en dépassement, donc c'est pas la peine d'attendre que le juge chargé du contrôle nous relance en nous disant où en êtes-vous pour dire j'ai besoin d'une prolongation. Il faut demander dès qu'on voit qu'on va être en dépassement, on annonce la couleur nous aussi en disant on doit également donner les éléments qui font que le délai ne sera pas respecté pour telle et telle raison, notamment des délais d'analyse de laboratoire. Ça, c'est incompressible. Vous savez, on parlait du CETIM tout à l'heure. Et tous les gens qui travaillent un peu avec le CETIM dans la salle savent très bien que c'est du 1 mois et demi, 2 mois de délai. Et encore, je suis gentil. Souvent, c'est beaucoup plus long que ça. Donc, dès qu'on est dans des délais incompressibles, puisque là, on n'a aucun moyen de faire quoi que ce soit. On a apporté les pièces, on a demandé, on s'est mis d'accord sur un programme d'essai, et puis après, il faut que le laboratoire fasse ses essais, nous fasse son compte-rendu, et nous établisse son rapport. Et je vous assure que entre le moment où on dépose les pièces et le moment où on a le rapport pour pouvoir l'exploiter auprès des parties, c'est rarement en dessous de 2 mois. Et des fois, c'est beaucoup plus que ça. Voilà. Parce que il arrive souvent aussi que les analyses de laboratoire débouchent sur des analyses complémentaires. Sous-entendu, on a découvert autre chose et il faut continuer. Et c'est là où ça devient très compliqué, parce que il faut demander des provisions complémentaires, des délais complémentaires, parce que une analyse métallurgique notamment peut déboucher sur plein de choses.
Non, je pense que ce qui est surtout important, l'attente des parties, parce que finalement c'est elles qui sont en attente de vos opérations et de leurs décisions, l'attente des parties vis-à-vis de la justice, quand on entend tout ce qui peut se profiler sur les critiques qui sont faites, sur sa lenteur et sur son coût, je pense qu'il est surtout important que les parties puissent avoir une vision et une prévisibilité de ce qui va se passer, aussi bien en termes de coût qu'en termes de durée. Je pense que ce qui est le plus important, le plus insupportable pour elles, c'est de voir débuter l'expertise et de se dire au bout d'un an, un an et demi, mais quand est-ce qu'on aura le rapport, quand est-ce que ça va finir, etc. Donc je crois qu'aussi bien en ce qui concerne le coût qu'en ce qui concerne les délais, il est important que l'expert nous informe, le magistrat chargé du contrôle des expertises, et bon, bien entendu que le juge suive ses expertises. En général, on suit surtout celles qui posent difficultés plus que celles qui roulent toutes seules, bien entendu. Mais je crois que c'est surtout ça, en fait, l'attente des parties. C'est que quand on parle de coûts, comme quand on parle, et du juge aussi d'ailleurs, et des avocats, quand on parle du coût, quand on parle de la longueur, c'est qu'on sache, qu'on puisse baliser à peu près là où on va, dès le début si possible, et tout au long de l'expertise en tout cas.
Oui, mais Madame la Présidente, vous savez que quand une partie nous demande, par l'intermédiaire de son avocat, de faire un essai, cet essai, on sait qu'il est inutile. Mais la procédure contradictoire nous impose d'informer le juge chargé du contrôle des expertises qu'une partie nous demande un essai, et là, on donne les éléments au juge pour lui démontrer que cet essai est complètement inutile, qu'il va retarder le dépôt du rapport, qu'il va augmenter le coût de l'expertise. On demande, bien entendu, l'avis du juge. À 100%, chaque fois que ça m'est arrivé, le juge m'a confirmé qu'il fallait faire l'essai. Donc, en résumé, on tire la sonnette d'alarme en disant « Voilà, le contradictoire m'impose de faire l'essai, mais je ne voudrais pas le faire. Je vous demande votre avis. » Et le juge nous répond « Il faut faire l'essai. » Alors, on fait l'essai.
Oui, mais vous oubliez que dans le procès civil, le procès est l'affaire des parties. Donc, certes, le juge est arbitre sur les demandes dilatoires ou sur les questions pour lesquelles, manifestement, la question posée vise à éloigner le dépôt du rapport. En revanche, dans le cas de figure que vous soulevez, le juge, à partir du moment où la partie est d'accord pour payer, pour attendre et pour faire une expertise, bien sûr que vous estimez inutile, mais là, le juge ne peut pas s'estimer en droit de la refuser, alors que les parties au procès le demandent. Son rôle d'arbitre...
Non, pas les parties, souvent une seule partie qui vient vous compliquer l'expertise, les autres sont contre.
Qui va payer cet essai?
Ah ben non.
Ah ben,
bah
si.
Non.
Ah ben
c'est non, le demandeur qui paye.
Non,
alors
non,
justement,
non,
si,
non,
bah justement, moi, dans mes demandes, je demande souvent aux magistrats de mettre la provision complémentaire à la charge de la partie qui demande l'essai.
Absolument.
On me répond non, c'est le demandeur qui paye.
Oui, mais alors
À chaque fois, on me l'a fait. Hein.
Je sais.
J'en ai la preuve.
Ah oui, mais alors, là, on est dans des démarches individuelles. Moi, je pense que c'est celui qui demande, forcément, qui doit payer. Et il faut lui impartir un délai pour payer. Et on lui dit qu'à défaut de paiement, s'il demande cette mesure, sa demande sera caduque. C'est vrai que sinon, on bloque totalement l'expertise. la seule façon qu'on puisse avoir. C'est très dangereux, c'est vrai, de faire un partage de la provision entre les deux parties, puisqu'il y en a une des deux qui ne paiera pas, et ça, c'est à éviter, à proscrire. En revanche, dans ce cas-là, je pense qu'il faut absolument mettre la provision complémentaire à la charge de la partie qui le demande. Sinon, on rentre dans son jeu et on bloque et on retarde effectivement inutilement. Donc je regrette que vous ayez ces réponses, mais alors là, je ne peux pas me mettre à la place des juges qui ont prononcé ces décisions.
Ah oui,
mais ça peut être aussi les tribunaux de commerce qui manient assez mal ces concepts. C'est la plupart du temps
c'est les tribunaux de commerce,
qui font des, ben voilà, qui font des partages de provisions qui sont après des, autant de moyens de chicane et de soucis de paiement de la provision.
Mais les tribunaux de commerce font une juridiction.
Il faudra que je leur explique.
Je voudrais revenir, moi, sur la problématique consignation de départ et délai. On nous dit, et c'est vrai, qu'il faut aller traiter les expertises le plus rapidement possible. Mais quand vous avez une consignation de départ, ça m'est arrivé dernièrement d'avoir une consignation de départ à 800 euros. Bon, on sait déjà que 800 euros, même sans se déplacer, ça va payer le déplacement, point, c'est tout. Donc on se déplace, on va voir, et on fait immédiatement une demande de consignation complémentaire avec le devis, au bout de la première réunion d'expertise. Ça veut dire que la première réunion d'expertise, si tout va bien, elle se passe dans le mois où on a reçu l'ordonnance. Il ne reste plus que 2 mois pour finir. On fait la demande de consignation complémentaire, qui est indispensable, parce que la consignation de départ était ridicule. On attend la réponse et l'ordonnance de consignation complémentaire, comme quoi elle est validée ou pas, et après ça, on attend le versement de la consignation complémentaire. Bon, on avait 3 mois pour traiter la mission, on est déjà au bout de 3 mois et demi, on n'a rien fait, on a fait une réunion. Alors qu'au départ, on nous aurait donné, ce que vous envisagez de faire sur 3, et ce qui est très bien, une consignation que vous faites, et c'est parfait, on nous aurait donné au départ une consignation de 2000 euros, qui permet... on aurait réglé le problème dans les 3 mois sans aucune difficulté.
Oui.
S'il vous plaît.
Un peu plus.
Pour en revenir au coût de l'expertise, tout à l'heure vous disiez proposer 3 laboratoires aux parties pour effectuer les essais, les recherches, etc. Le temps que vous mettez à vous rapprocher des laboratoires, demander ce qui est utile à l'expertise, tout ce temps, vous le facturez comment ? En taux plein ou en taux de secrétariat ? En
taux de secrétariat.
C'est très rapide. Hein,
en taux de secrétariat. Quand on informe un laboratoire, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un courrier en disant au laboratoire ce qu'on veut. On joint dans ce courrier, on joint des photos. Avec Internet, ça va quand même... avec les moyens qu'on a actuellement, et en plus les communications avec les laboratoires se font parfaitement par le net, donc ce n'est que du secrétariat.
Puis ça demande très peu de temps. Puis à la limite, vous faites une consultation, puis vous la dupliquez pour les autres laboratoires.
C'est pas... Une fois qu'on a fait le type de lettre, il suffit de changer l'entête, c'est TIM, LNE, donc ça va très bien, et ça... Et les réponses sont relativement... Moi, je trouve que les réponses des laboratoires pour l'établissement du devis, si on a défini clairement ce qu'on attendait d'eux, pour l'établissement du devis, les laboratoires répondent sous 8 jours. Hein, ouais. Donc, quand on a les devis, on communique aux parties, et puis après ça, c'est aux parties de nous dire on valide ou on valide pas. Quel choix on fait.
Par contre, on donne un choix qui n'est pas forcément le moins de 10 ans. Sous-entendu... si on veut travailler avec le LNE ou avec l'Institut de soudure, on va dire bon, il est un petit peu plus cher, mais on souhaite travailler pour telle et telle raison.
Hein. Pour ma part, je laisse les parties choisir le laboratoire. Et j'ai eu des surprises à plusieurs reprises où, naturellement, les parties ont pris le laboratoire le moins cher. Et ce qui n'est pas forcément le laboratoire qui donne les meilleurs rapports, quoi. Oui, et bien souvent, les rapports que nous donnent les labos, ils sont indispensables pour qu'on puisse conclure correctement. Si le laboratoire ne fournit pas de bons rapports, nos conclusions, elles sont nettement moins bonnes, quoi. Hein.
Mais c'est pour ça que je pense que un expert, quand il communique ses devis, bah, il peut donner sa préférence, Bon, après, les parties décident, mais au moins, on dit, ben voilà, nous, on souhaiterait travailler avec le CETIM, par exemple, pour telle et telle raison. Ben après, bon...
Oui, je voulais prendre la parole. Dans une démarche de qualité, on parle toujours des coûts et délais dans toutes les branches,
tout à fait.
Dans tous les domaines.
Même en ISO 9002.
Coûts et délais, l'interface entre la justice et nous, c'est important. Il y a la compagnie d'experts chez nous. Nous avions des tribunaux différents, Sarreguemines, Colmar ou Metz. Et les consignations de départ, par exemple 1500 Metz. Et souvent, Sarreguemines nous mettait généreusement 700 ou 800 euros. Donc, c'est vrai que je rejoins le défaut des délais, puisque le temps de la demande et de la réception de l'accord et de la preuve de versement, il peut se passer 2-3 mois. Ça grève fortement les délais. Donc, je pense une démarche de qualité. Il faut partir sur ce qui s'est dit déjà, que j'approuve, c'est-à-dire une vingtaine d'heures pour une mission normale, nous on a 90 euros, ça fait 1800 déjà, hors taxe. Il faut compter dans les 20% de frais du bourg, hein, 20-30% parfois.
Oui.
Donc si on est à 2200-2500, je pense que même si c'est un peu trop pour certaines affaires simples, la consignation étant déposée,
alors justement,
c'est arrivé de facturer. Bon,
justement, moi je vous propose autre chose. Souvent on reçoit l'ordonnance, la provision n'est pas encore déposée puisqu'on attend que le greffe nous prévienne du dépôt de la provision pour démarrer l'expertise. Mais à ce moment-là, au moment où on reçoit l'ordonnance, c'est à ce moment-là qu'il faut réagir immédiatement en disant on accepte. Et ça, je le fais assez couramment. J'accepte l'expertise, puisqu'on a le formulaire sur lequel on coche, j'accepte. Et sur ce formulaire, j'écris, je souhaite un complément de provision.
Tout à fait, mais ce que je
voulais dire, il y a une
démarche importante entre les compagnies experts vis-à-vis des tribunaux pour justement harmoniser ces consignations dans des domaines qui sont similaires. Parce qu'il y a eu trop de disparités. Et donc, ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est très favorable. Et nous, notre démarche avec notre président, le docteur Patrick Bernard, qui est là dans un autre groupe, c'est notre démarche pour harmoniser justement entre les tribunaux, avoir une bonne communication pour une démarche de qualité.
Ça, c'est un vœu, mais je crois que...
Si, ça marche. Il y a une bonne communication entre les tribunaux maintenant de Colmar, Sarreguemines, Metz, Briey, etc., maintenant qui commence à fonctionner grâce à la compagnie d'experts.
Par contre, moi, je vous propose toujours, au moment où vous acceptez la mission, vous savez, puisque vous avez eu votre ordonnance dans les mains, vous savez que on a déposé 700 euros. Vous savez, par rapport à la première lecture de cette ordonnance, que les 700 euros, c'est même pas la peine d'essayer, c'est insuffisant. Donc, à ce moment-là, au moment où vous acceptez votre mission, sur le document navette, vous écrivez « Je demande un complément de provision ». Alors pourquoi ? Parce que souvent, à ce moment-là, on peut avoir une ordonnance complémentaire plus rapidement. Et au moment de la provision, on peut obtenir la globalité des 700 euros plus le complément qui va être déposé en même temps.
Oui,
voilà, ça permet de comprimer un peu les délais.
On fait l'observation sur cette feuille. Moi, en général, on fait par un courrier au juge qui attire beaucoup plus son attention sur le problème. Parce que si on mélange des fois les courriers, on demande délai et consignation dans le même courrier, des fois, il n'y a qu'une chose qui est vue et pas l'autre. Hein. Donc,
moi, je vous dis, je l'ai fait à plusieurs reprises, ça marche très bien.
Ouais.
Au moment où vous acceptez l'expertise, ça marche très bien de demander ce complément de provision immédiatement. Ça marche et ça vous permet d'aller beaucoup...
Okay. Pardon.
Oui, voilà.
Oui,
accepter sous réserve
d'une
provision complémentaire.
Oui.
Excusez-moi, mais je pense aussi, parce que là, je vais peut-être exprimer le point de vue des parties.
Oui.
Puisque moi, j'interviens à la fois en demande et en défense. Mmh. Donc, je rejoins d'abord les observations de Mme la présidente du TGI de Troyes pour souligner que dans le cadre de nos démarches à l'égard de nos clients, lorsque nous sommes en demande, nous attirons l'attention des justiciables sur le coût qui sera vraisemblablement supérieur à la provision qui est en effet faible, telle qu'initialement fixée. Mais je crois aussi que les parties peuvent jouer un rôle dans la fixation de la provision dans le cadre du débat qui se tient devant le juge des référés, puisque nous avons connaissance quand même, en demande, voire en défense, de la complexité des opérations d'expertise qui vont se dérouler. Il nous arrive parfois de suggérer ou d'orienter le nom de l'expert en attirant l'attention du magistrat sur la spécialité des travaux qui vont lui être confiés. Je pense que de la même manière pourrait être abordé le coût. Parce que nous savons, pour certains d'entre nous, nous savons que nous allons nécessairement aller vers des investigations techniques poussées et qu'il faudra certainement des honoraires élevés.
Vous avez raison.
Je pense que sur ce point-là, peut-être que notre travail
auprès des magistrats... Je dirais même que vous êtes les seuls, les parties, justement, à connaître les détails de l'expertise. Parce que l'expert...
Oui et non, dans la mesure où c'est vrai pour certains types de sinistres, pour d'autres... Pour d'autres, nous découvrons le sinistre en cours d'expertise et ça me permet de rebondir sur des propos qui ont été précédemment tenus, à savoir, et je remercie particulièrement Monsieur le Premier Président de rappeler que l'expertise est la chose des parties, notamment, et que lorsque, en tant qu'avocat d'une ou l'autre des parties, nous sommes amenés à envisager des mises en cause, je peux vous assurer, et je pense que les experts qui me connaissent dans le cadre des opérations d'expertise de bâtiments le savent, ce n'est absolument pas dans un but dilatoire, mais lorsque nous découvrons en cours d'expertise, et parfois alors que les opérations d'expertise sont bien avancées, qu'il est nécessaire d'appeler telle ou telle partie, nous le faisons dans des délais aussi brefs que possible. Je laisserai mes confrères confirmer mon propos ou bien donner leur point de vue. Le but de l'avocat en demande, ou même de l'avocat en défense, puisque l'avocat en défense sait très bien que les frais d'expertise peuvent rester à la charge définitive de son client, n'a pas intérêt ni à faire traîner les choses, ni à augmenter le coût des frais d'expertise.
Alors, vous avez raison, c'est vrai. Mais, vous savez, tous les avocats ne raisonnent pas de cette manière-là. Et on en a la preuve.
Oui, Antoine Morel, avocat à Reims. Moi, je rejoins ce que dit notre consœur Colette Yonne. On va prendre un exemple. Les maîtres d'ouvrage, monsieur, madame, font construire ce bâtiment, cette chapelle, et après réception, se rendent compte qu'il y a une fissure en haut du vitrail. Ils viennent nous voir. Nous, on ne sait pas. Techniquement, on ne sait pas. Alors, souvent, vous avez un des membres du couple qui dit « Oh, ben, c'est grave, ça va s'effondrer, etc. » Il faut une expertise. L'autre qui dit « Oh, ben, c'est tout, c'est le joint qui a dû se déliter, ça travaille. On verra bien après. » Bon. Moi, personnellement, je vais faire une expertise. Je vais demander à peu près entre 1 000 et 1 500 euros d'honoraires pour rédiger l'assignation, la délivrer. Je vais assigner qui? Le géotechnicien, je vais dire, c'est peut-être le sol qui travaille. Le maçon, l'architecte, le contrôleur technique, je vais dire, c'est peut-être un mouvement de charpente, le charpentier. Le client a déboursé 1 500 euros. Après, je lui dis, première consignation, 1 000, 1 500, 2 000 euros. Donc, il faut que vous mettiez 3 000 euros dans le commerce pour savoir ce que c'est. Et nous, en tant qu'avocat, dans ce cas-là, notre souhait, c'est qu'une fois que le client a dépensé 3 000 euros, 1 500 euros pour son avocat, frais de justice, 1 500 euros pour l'expert, il sache, à l'issue de la première réunion, s'il fait bonne route ou s'il fait fausse route. Est-ce que, et là, il y a peut-être 20 ou 30 experts ici, vous avez une fissure comme ça, nous, en tant qu'avocat, on ne sait pas. On ne sait pas si à la première réunion, l'expert va nous dire « Oh ben, c'est rien, c'est tout, ça, on ferait le joint. » Ou alors « Ah ben, il faut faire des études, c'est problème d'études de sol, c'est le mouvement, c'est le bâtiment qui travaille, il faut faire des investigations complémentaires. » Et vous voyez, même avec quelques années de pratique, nous, on ne sait pas, on va un petit peu dans le...
Non, alors j'interviens tout de suite sur le problème bâtiment, parce que je connais quand même pas mal ces problèmes-là. Avant d'en arriver à la procédure judiciaire, il y a eu quand même toute une procédure amiable avec les experts de compagnies d'assurance. Hein, notamment, vous avez...
Pas forcément.
Ah bah souvent. Hein, souvent, vous avez notamment ce qu'on appelle la décennale, ce qui veut dire que soit le bâtiment est réceptionné et vous êtes dans la procédure décennale, soit il n'est pas réceptionné, mais vous avez l'occasion d'avoir des experts d'assurance qui vont déjà vous donner l'importance du désordre. Soit c'est quelque chose qui est facilement réparable et il n'y a aucune raison d'aller sur le terrain judiciaire. Soit alors c'est quand même quelque chose de très complexe parce qu'il y a eu des sous-traitants, enfin bon, et puis il y a une responsabilité diffuse et c'est là où on va en judiciaire pour comprendre et puis faire la part des choses au niveau des responsabilités. Mais quand c'est une simple fissure que l'expert d'assurance vous a dit, ben voilà, c'est pas grave, on va réparer, je vois pas l'intérêt d'aller en judiciaire, d'avoir une expertise judiciaire sur.
Expert, par exemple, cette fissure-là, vous savez ce que c'est, vous, monsieur expert, cette fissure-là, vous savez ce que c'est, par exemple, au-dessus du vitrail.
Vous voyez, alors.
Ouais. Non, mais vous voyez, là, votre maître d'ouvrage, là, je suis sûr qu'on a 10 experts, on aura 10 points de vue différents.
Mais évidemment, mais vous avez déjà un avis. Déjà un avis, parce que vous dites je suis avocat, je n'ai pas d'avis. Si, vous avez déjà les experts d'assurance qui vous ont donné leur position. Et c'est à ce moment-là, mais écoutez, toutes les procédures, il y a toujours des rapports d'experts d'assurance, hein, et ça, on les a en main au niveau de la procédure. Donc, en tant qu'avocat, vous avez déjà votre compagnie, enfin la compagnie d'assurance de votre client qui a déjà missionné un expert et vous avez déjà une idée de ce qui se passe. C'est pour ça que je dis attention, la procédure judiciaire, c'est déjà aller au-delà parce que au niveau de l'arrangement amiable, on n'a pas réussi à le trouver. Hein.
Excusez-moi, j'ai oublié de faire une observation lors de ma précédente intervention. Je reviens sur le problème du coût, puisque c'est quand même l'objet principal de notre thème. Moi, j'ai été amenée, je pense que mes confrères aussi, à constater quand même une difficulté quant au coût d'une expertise lorsqu'un expert qui est désigné par le tribunal accepte une mission qui ne relève pas de sa compétence. Et qui, en fait, va faire appel à un, voire plusieurs sapiteurs. Je pense que mon confrère Morel, qui intervient pour les architectes, va tout de suite penser à quel expert je fais allusion. Cet expert prenait systématiquement les missions et nous avions toujours plus ou moins les mêmes sapiteurs qui intervenaient à ses côtés dans le cadre de ces opérations. Je pense que ça générait quand même un coût supérieur à celui qu'aurait entraîné une mission accomplie par ses soins. Et là, je pense qu'à nouveau, c'est peut-être au stade de la désignation de l'expert que soit l'expert doit être désigné en fonction d'une compétence bien déterminée, soit vérifier qu'il peut remplir la mission.
Alors là, je vois trois réponses à votre question. Je vous en prie.
C'est vraiment le genre de réflexion qui dénote d'abord une absence complète d'information ou d'échange avec le magistrat qui désigne. Et je pense qu'au moment où on demande l'expertise, on peut faire la remarque au juge qu'on ne souhaite pas que M. Intel soit désigné, dans la mesure où habituellement on a constaté qu'il se faisait assister de sapiteurs qui étaient de la même spécialité que la sienne, qui paraît pour le moins curieux. Donc je pense que ce problème peut être réglé de cette façon-là, et à défaut, par le bâtonnier, de signaler quand même ce type de conduite anormale. Logiquement, l'expert, il lui est demandé de se déporter s'il ne s'agit pas d'une de ses spécialités, et le problème ne devrait pas perdurer dans le temps s'il arrive une seule fois. Les prolongations. Alors, les prolongations, je pense effectivement, Paris, par exemple, a passé un protocole dans lequel les avocats s'engageaient à mettre en cause le plus rapidement possible les tiers dans une procédure. Donc je pense que là aussi, c'est une bonne pratique qui mérite d'être encouragée, de ne pas attendre lorsque des tiers apparaissent utiles à l'évolution de la procédure, que d'ailleurs l'expert donne son avis sur ces mises en cause, de façon à ce que le juge se prononce en toute connaissance de cause pour donner son accord et fasse une ordonnance complémentaire pour les mettre à la procédure.
Contrairement aux apparences, je ne dormais pas, j'écoute avec la plus grande attention ce qui est dit et je constate que les problématiques que nous connaissons dans les tribunaux sont rigoureusement identiques, oui, à celles qui ont été abordées ici. Je dirais que en matière de bâtiment, nous, en réalité, quand nous ordonnons une expertise, nous ne fixons pas une provision, je ne sais pas comment ça se passe dans la juridiction judiciaire, mais j'ai cru comprendre qu'elle était fixée peut-être automatiquement, oui, par le magistrat. Chez nous, oui, ça n'est pas fait, comme vous le savez tous.
Oui, tout à fait.
Nous fixons l'étendue et la nature de la mission et nous désignons l'expert. Et c'est après seulement, mais très très vite, que nous, en général, fixons une provision. Donc j'ai le souvenir, alors comme présidente de cour d'appel, on n'a jamais, moi j'ai pas souvenir, je suis à Nancy depuis 6 mois seulement, j'ai pas souvenir d'avoir taxé une expertise depuis mon arrivée. Mais j'étais responsable des expertises au tribunal administratif de Melun, très gros tribunal, et avec un contentieux bien plus important en nombre que celui de la Cour de Nancy. Donc j'ai des souvenirs très précis qu'en matière de référé préventif dans les opérations qui nous étaient soumises, qui étaient des opérations comme souvent des destructions de bâtiments en vue de reconstruction d'autres choses et qui obligeaient à faire des expertises sur quantité de bâtiments avoisinants, des ouvertures de voies, enfin des choses très lourdes. Je n'ai jamais, moi, fixé une provision. Enfin, le tarif habituel, il me semble-t-il, c'était plutôt de l'ordre de 8 000 euros de mémoire que 1 500. 1 500, c'était les IMR, les immeubles menaçant ruine, ça c'était systématique. D'ailleurs, ce qui m'étonnait un petit peu chez nous, c'est que c'était en général partagé. Il y en avait, je dirais pas une dizaine par semaine, mais 5 ou 6, et qu'elles étaient toujours affectées au même expert, ce qui est un problème de gestion du tribunal dont je me suis occupée, mais c'est autre chose. Il faisait une petite ronde pour cet expert. Mais en tout cas, en matière de bâtiment. Et puis après, voilà, on accordait des provisions sans barguigner au fur et à mesure qu'elles étaient demandées. Je crois.
Excusez-moi, mais moi, les expertises devant la Cour administrative d'appel de Nancy que j'ai réalisées n'ont obtenu aucune provision. À la fin de l'expertise, j'ai établi ma note d'honoraire qui a été taxée par le président du tribunal. Et cette note d'honoraire m'a été réglée puisque, en fait, on a un accord du magistrat sur la note d'honoraire, mais la note d'honoraire n'est pas réglée à ce moment-là. On doit la présenter à la partie parce que le président nous dit... c'est cette partie-là qui doit vous régler. On envoie la note d'honoraire à cette partie et on attend d'être payé. Et alors là, des fois, on attend un petit peu. Hein.
Alors, là, effectivement, ce qui arrive toujours devant la Cour administrative d'appel, c'est que l'expertise a été ordonnée par la formation collégiale. On n'est jamais en référé préventif. Et c'est évidemment dans un litige au fond. Et c'est la formation qui déterminera non seulement le montant des frais d'expertise, mais surtout la partie qui devra, la partie qui succombe en fait, qui devra régler les frais d'expertise. Et après, effectivement, c'est au...
C'est pour ça qu'on a un double... Il y a deux attentes là. Au moment où on dépose le rapport, on doit attendre... que le président décide à qui revient, et ça peut durer 4 ou 5 mois, ça a duré 1 an, hein, entre le moment où j'ai déposé mon rapport et le moment où j'ai été réglé. Parce que après, on sait à qui présenter la note, et puis là, on attend à nouveau, parce que c'est la partie qui doit payer.
Oui, non, mais parce que je crois que vous, je répète, vous étiez certainement, vous avez été désigné expert dans une affaire au fond, qui a été jugée, oui, au fond, alors que les allocations provisionnelles sont réglées dans le cadre de référés préventifs.
D'accord.
Ou de référés, ce qu'on appelle les mesures utiles, qui sont des expertises qui sont détachées d'un litige.
D'accord.
Qui peuvent d'ailleurs parfaitement exister, alors que on a par la suite, les parties, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ne viennent pas devant un tribunal pour faire déterminer précisément la responsabilité, régler les frais qui résultent de cette responsabilité, y compris les frais d'expertise. Alors pour ce qui est de l'affaire dont vous parlez, effectivement, le dépôt d'un rapport d'expertise après nécessite un examen par le juge. c'est-à-dire quelques mois. Alors je dois dire, Nancy a la chance de juger en moyenne en, je dirais, moins d'un an. Peut-être pas les affaires qui sont forcément des affaires complexes dans lesquelles interviennent des expertises, mais moins d'un an à partir de l'introduction de la requête et pas du dépôt de l'expertise qui intervient. Bon, à vrai dire, je n'ai pas d'expérience. Hein, je peux pas vous citer d'exemples concrets puisque je n'ai pas d'expérience. Et pour ce qui est de ces délais, il faut donc attendre que la formation collégiale statue au fond. Et le président, alors là, pour le coup, dans la mesure où c'est extrêmement rare, le président taxe, effectivement, le président de la Cour, c'est une de ses attributions propres, taxe dans les jours qui suivent la décision qui a été prise par la formation collégiale. Mmh. Après le paiement, la Cour n'est plus responsable, hein, c'est à la diligence de l'expert et puis après la bonne volonté de celui qui succombe. Mmh. Et là-dessus, si, bien sûr, il y a l'exécution.
Bien. Moi, je voulais récapituler, enfin prendre quelques points particuliers qui ont été abordés, donc ils vont être assez divers et variés. En ce qui concerne la location provisionnelle, j'ai donc eu l'occasion depuis une douzaine d'années de diligenter un certain nombre d'expertises au TA. J'ai jamais eu de difficulté pour obtenir des allocations provisionnelles. Dans leur présentation et... la difficulté que j'ai pu avoir, c'est dans le montant. C'est-à-dire que systématiquement, le magistrat au TA peut être amené, le fait assez systématiquement de rabaisser la facture présentée, enfin le prévisionnel présenté. Mais la demande, elle est toujours un retour positif. Voilà. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le demander. Je ne vois pas pourquoi tu aurais eu une difficulté.
Si, parce que bon, c'était la procédure sur le fond, ça c'est autre chose. D'accord. C'est une procédure
donc,
très spéciale.
Procédure bâtiment classique au TA, un établissement du domaine public qui a besoin d'une procédure bâtiment, donc la location elle est proposée et elle est retenue. La limite des frais en matière de compétences ou de sapiteurs. Effectivement, il m'arrive de temps en temps de refuser une mission parce qu'elle n'est pas de ma compétence. Et donc ça, j'hésite jamais. Pour la bonne et simple raison, c'est que si je prends une mission qui n'est pas de ma compétence, je vais être le premier embêté. Donc, je vais être confronté à une difficulté, donc je préfère pas la prendre. Il y a des gens très compétents qui sauront faire ce pour quoi je suis désigné. J'en ai encore une là, où on me demande sur un bâtiment qui a brûlé, de déterminer... Alors, c'est pas du pénal, c'est du civil, mais la gendarmerie, dans le libellé de la saisine, la gendarmerie n'a pas réussi à savoir exactement d'où venait l'incendie. Et on me demande, on envisage que ce serait pas une bougie mise en place près de la charpente, mais que ce soit un problème électrique. Et donc, je ne vais pas la récupérer, ces dossiers. Bon, c'est pas sur cette juridiction, mais je ne vais pas la prendre parce que j'y connais rien en électricité. Et si le gars a mis 10 radiateurs électriques sur sa rallonge et que ça a pris feu, il va falloir que je trouve un spécialiste du départ d'incendie à un compteur électrique. Voilà. Donc ça c'est donc ne pas hésiter à ne pas aller dans sa compétence, ça c'est vraiment une certitude et on ne doit pas se gêner pour ça. Rebondir sur le propos de Maître Yon sur les avocats qui joueraient, enfin s'élever en faux contre les avocats qui joueraient les prolongations, je suis parfaitement d'accord avec elle. Les avocats du bâtiment connaissent en général tous le coût des opérations d'expertise de construction et ce sont souvent les meilleurs garants aux limites et aux limites de frais. Et donc ils sont, j'en ai jamais vu sincèrement, qui prolongent les opérations pour le plaisir de faire tourner des réunions. Et en revanche, ce qui peut arriver, c'est qu'on nous sorte une nouvelle partie derrière le chapeau et que, après avoir fait quasiment tout le tour de la question, on se retrouve avec un sous-traitant de sous-traitant qu'on aimerait bien entendre pour lui refiler une petite partie de la patate chaude. Donc là, on a, de façon parfois tardive, une obligation de refaire un contradictoire qui est simplement un formalisme obligatoire procédural, mais qui permet de ne pas être contesté dans ses conclusions. Donc là, on ne peut pas s'y opposer, mais ce n'est pas dans ce sens-là que les avocats jouent volontairement les prolongations. Pour rebondir sur ces mises en cause successives, il y a un point quand même intéressant que j'ai trouvé dans un TGI qui... affecte une consignation complémentaire, enfin une nouvelle provision, à la partie qui met en cause. C'est-à-dire que si un assureur, j'en sais rien, ou une partie met en cause son assureur, si un assureur veut mettre en cause une autre partie, eh bien, le magistrat n'a pas besoin d'accorder une provision à l'expert qui va lui prolonger ses opérations, mais il continue d'alimenter le pot à la régie avec une provision complémentaire affectée à la partie qui met en cause. Ça, c'est pas forcément totalement idiot. C'est pas forcément idiot parce que ça permet d'éviter des conciliations complémentaires toujours à charge du demandeur. Voilà. Et donc ça, c'est assez peu pratiqué. Mais ça devrait l'être systématiquement. S'il y a des mises en cause, eh bien, celui qui met en cause vient réalimenter la régie sur la ligne de l'expertise. Un point complémentaire que je voulais reprendre aussi. Ah oui, donc il y a un autre TGI qui de temps en temps me saisit, qui m'envoie à la mission. Alors là, c'est pour revenir sur les délais, qui ne m'envoie la saisine que lorsque la consignation est en régie. Et donc ça, on gagne une étape parce que le délai pris par le juge tient compte du délai auquel il va prévenir l'expert. Et donc on n'a pas besoin d'attendre parce que là, effectivement, en délai incompressible, il y a ensuite le greffe qui nous informe que la somme est consignée. Et donc là, quand le juge à l'audience a pris 4 mois de délai pour l'expertise, dont un mois de dépôt de la somme en régie, et ensuite que le greffe doit nous informer que cette somme est déposée, eh bien, la première réunion, on l'a fait juste 15 jours avant le premier délai proposé par le juge. Voilà. Donc c'était, je crois, les seuls... Et puis, si, dernier point, je trouve que le tarif syndical à l'ouverture du dossier proposé par Madame la Présidente de Troyes, de l'ordre de 2 000 euros, me paraît effectivement une bonne idée. Voilà, merci.
C'est effectivement une très bonne idée.
Je voudrais revenir sur cette histoire de sapiteur ou d'expert désigné par un tribunal administratif qui, Dieu merci, restera anonyme, alors qu'il n'était pas compétent et qu'il a été nécessaire de désigner un sapiteur. Je pense que le plus simple est de parler et de se rapprocher du président de la juridiction pour lui signaler cette affaire. Aimablement, c'est pas la peine de le faire de façon désagréable, parce que nous sommes effectivement, vous le savez probablement, une de nos préoccupations majeures à nous, magistrats, c'est de désigner les experts les plus compétents possibles, les plus efficaces dans le temps. C'est vrai que moi j'avais fini par faire des espèces de tableaux croisés dans lesquels j'essayais pour mon usage, mais aussi pour les autres, parce que je considère que toutes ces informations doivent pouvoir être connues de tous et transmises, de repérer les experts efficaces, pas trop rapides, et si possible aussi pas trop coûteux, parce que ça fait partie pour moi de la qualité générale. Bon. Donc il faut parler, il faut dire les choses au magistrat, au président de la juridiction.
Mais quand vous dites il faut, vous pensez à qui? Les parties, les avocats?
Un avocat. D'accord. Peut attirer. Si c'est une fois, ça peut être un hasard malheureux et c'est pas une règle. Si ça se présente plusieurs fois que par hasard les magistrats ne l'ont pas repéré, parce que je pense que vous savez que tout ce qui touche à l'expertise n'est pas pour nous malheureusement le cœur de notre activité, que ça se fait en plus du reste qui est déjà très très lourd. Je ne dis pas que ça ne soit pas fait sérieusement, mais ça peut en plus être partagé entre plusieurs personnes. Ce ne sont pas des sujets dont on parle régulièrement, c'est vrai, on a tort, en réunion de fonctionnement des juridictions. Ce sont des choses dont on parle dans les couloirs. Enfin, ce ne sont pas des sujets qui sont vraiment traités peut-être comme il le mérite, mais il faut que les choses soient dites, il faut qu'elles soient vérifiées aussi, bien sûr, il faut qu'elles soient arrivées plusieurs fois, et à ce moment-là, il est évident qu'on arrêtera de le faire. Enfin, je veux dire, on n'est pas plus bête que d'autres.
Dans une situation idéale, on aimerait être très disponible et à l'écoute de toutes les réclamations et de tout ce que les experts ont à nous dire et de pouvoir leur répondre à chaque fois qu'ils nous sollicitent. Concrètement, nous ne sommes, enfin, en tout cas, je vais parler que pour moi, pas forcément toujours très disponibles pour être aussi réactifs que peut-être les experts le souhaiteraient pour nous avoir au téléphone ou autre. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, indépendamment des courriers, au niveau du TGI de Troyes, mais je pense que c'est le cas aussi dans d'autres juridictions du ressort de la Cour d'appel, on va mettre en place une boîte structurelle pour les experts, et que bon, je ferai ma petite réunion localement à l'automne, je pense, avec les experts du ressort du TGI de Troyes. On essaiera de travailler de plus en plus par la voie électronique et par voie dématérialisée. Mais aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'en ce qui concerne effectivement l'information de départ, bon, qui effectivement consistait à dire à l'expert, vous êtes désigné, est-ce que vous acceptez? Maintenant, vous attendez qu'on vous informe que la consignation est faite pour commencer vos opérations d'expertise. Donc déjà, nous, ça nous fait deux courriers, alors qu'on pourra en faire qu'un. Donc on va aussi passer au système, on vous informera quand la consignation sera déposée. Vous risquez forcément d'être, entre guillemets, interpellé par les parties qui vont vous dire « mais vous avez été désigné, vous n'avez, enfin, comment se fait-il que vous ne soyez pas au courant ?» Donc en fait, vous ne serez maintenant mis au courant que quand la consignation sera déposée. Le délai, bien entendu, pour déposer votre rapport ne courant qu'à partir du moment où la consignation sera déposée. Donc vous serez informé de votre désignation. En ce qui concerne le coût et la durée, c'est deux choses qui sont effectivement, qui peuvent être liées. Vous n'ignorez pas que, en ce qui concerne les provisions complémentaires, comme pour à la fin la taxation maintenant, on est obligé d'avoir l'avis des parties sur les demandes de taxation complémentaire. Donc n'hésitez pas, quand les parties ont été d'accord au moment où vous l'avez proposé, enfin, où vous avez émis l'idée d'une consignation complémentaire, à nous le dire, parce que sinon nous, quand votre demande de consignation complémentaire arrive, on demande aux parties leur accord. Si vous l'avez déjà, dites-le nous. D'accord. Comme ça, on va gagner du temps.
Bien sûr.
Et en général, quand consignation complémentaire il y a, si vous mettez dans votre lettre qu'effectivement il y aura prorogation de délai, voire même d'office, ça arrive également, on fait une prorogation de délai. C'est pour éviter les courriers à répétition, parce qu'à chaque fois que vous nous envoyez un courrier, évidemment, il attend au greffe que le magistrat chargé du contrôle des expertises ait le temps d'aller au greffe traiter le courrier. Donc, moins il y a de courriers, plus on va vite. Donc, essayons de grouper à chaque fois, le plus souvent possible, un seul courrier pour tout, quoi. Voilà. Enfin, pour tout, pour tout. au moins deux choses.
C'est enregistré.
La voie électronique, pour ça, c'est merveilleux. Parce que le téléphone, c'est vrai, il faut trouver les gens. Ils ne sont peut-être pas disponibles, ils ne sont pas là. Le message, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple pour formuler une demande, demander une précision, faire une remarque, une observation. Et je pense que le système des boîtes personnelles ou structurelles, quand on a un échange régulier avec le magistrat, il y a toute une série des problèmes qu'on a soulevés ce matin qui doivent se régler. Je veux bien qu'on fasse un distinguo entre la désignation et la confirmation de la consignation versée. Ça me paraît quand même faire l'impasse sur le fait précisément que certains experts peuvent dire « je ne suis pas compétent ». Donc là, on le met directement et dans la consignation versée, vous pouvez y aller. Il dit « mais je ne suis pas compétent » et on repart à zéro. Donc moi je pense simplement qu'on peut lui demander...
Il y a peut-être un contact téléphonique entre le magistrat et l'expert.
Ou par électronique.
Ou par électronique.
En disant « j'envisage de vous confier telle mission, voilà mon projet d'ordonnance, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, ils peuvent avoir tout un échange
tout
sur les délais, la nature...
Justement, j'ai une proposition à vous faire. Pourquoi ne pas inclure un petit paragraphe dans l'ordonnance en donnant les adresses mail des magistrats, magistrat qui a commis l'expertise, magistrat qui est le magistrat qui va contrôler l'expertise. Pourquoi ? Parce que souvent, l'expert ne demande que à faire des courriers électroniques, mais on se heurte des fois à ne pas connaître l'adresse mail. Alors, pourquoi ne pas systématiquement mettre dans l'ordonnance les adresses mail des magistrats qui vont s'occuper de cette expertise.
Et oui, pourquoi ?
Parce que j'ai peur que si je vous mets mon adresse mail, parmi tous les mails que je reçois, je ne ciblerai pas forcément celui de l'expert qui est plus urgent que l'autre et qui a trait à telle ou telle expertise. Ce qui vous sera communiqué, ça sera l'adresse mail donc structurelle
expertise.
Tout à fait.
Donc qui arrivera directement et qui pourra être ouverte à la différence d'une boîte personnelle, qui pourra être ouverte aussi bien par moi que par le greffe pour voir ce qu'il y a dedans, alors que quand je suis absente sur ma boîte présidente TGI ou sur ma boîte Nathalie Fèvre, personne normalement n'est censé avoir mon mot de passe pour aller voir ce que j'ai reçu.
De toute façon, l'important, c'est qu'il y ait dans l'ordonnance cette adresse, de manière à ce que l'expert puisse l'utiliser et que ce soit vraiment le lien entre...
Oui, oui, mais c'est ce qui va être fait.
Ben voilà, c'est... On y arrive. Ouais. Le temps passe, hein, il ne nous reste que 4 minutes. Alors, on avait prévu un petit moment en fin de réunion pour traiter les questions hors sujet. On s'était réservé, on a tellement consommé de temps que les réunions, que le temps consacré au hors sujet va être très réduit. Mais justement, on est là pour écouter toutes vos questions. Qui sont un peu hors sujet, mais alors moi j'ai eu des experts qui sont venus me voir tout à l'heure en me disant il y a une question hors sujet qu'il faut aborder, c'est le délai de règlement des notes d'honoraires en pénal, parce que les gens sont venus me voir en me disant on a des notes d'honoraires qui ont déjà presque un an, qui ne sont toujours pas réglées. Et ça pose de gros problèmes de trésorerie aux petites structures, notamment des petits cabinets d'expertise. Et je vois les gens qui m'ont posé cette question. Alors, voilà, on a des délais de règlement en note d'honoraire en pénal qui, ça dérive complètement. Et notamment à Troyes, où on a changé trois fois. On était rattaché à Reims, après on a été rattaché à Dijon, et puis maintenant on est rattaché à Nancy, je crois. Et à chaque fois... C'est Dijon, oui, pardon, j'ai dit dans le désordre, excusez-moi, parce que... Mais voilà, donc le problème, c'est que... Et chaque fois qu'on change, mais alors, ça prend des délais...
Oui, malheureusement, le problème n'est même plus un problème de rattachement, c'est le problème de l'État. Et là, c'est le ministère de la Justice qui fait de la cavalerie. Donc j'ai honte de le dire, mais je suis le premier à le déplorer. Mais nous avons, si nous avons du retard dans le paiement des frais de justice, c'est parce que nous ne recevons pas les crédits suffisants pour régler ces honoraires, à tel point que nous sommes obligés de prioriser les paiements et que nous privilégions, pourtant, en tout cas je l'ai demandé, les traducteurs, les experts, les jurés d'assises, tous ceux qui ont des sommes importantes et pour des activités individuelles pour payer ensuite les frais de téléphone EDF, mais c'est même ces fournisseurs maintenant qui ont donc avec le retard la poste des factures beaucoup plus importantes commencent à assigner l'État en paiement de dommages intérêts pour les retards de paiement. Donc ça, c'est un problème qui manifestement nous dépasse, chef de cour, puisque nous nous contentons de faire pratiquement au mois de mars-avril des demandes de budget complémentaire et qu'une fois que vous avez épuisé la dotation initiale, vous attendez des paiements complémentaires et qu'entre-temps s'accumule un retard dans les factures. Donc la solution n'est pas là dans l'organisation ou dans le dysfonctionnement des cours d'appel, mais à un niveau plus élevé.
Donc aucune solution. Non, mais ça pose problème au niveau des petites structures.
Pour être que c'est pas Dijon ni Nancy, c'est vraiment on a même maintenant un système extrême beaucoup plus performant depuis un an ou deux d'enregistrement, de regroupement de façon à diminuer le nombre de mémoires de frais de justice, de façon à ce que tous les institutionnels fassent des regroupements. On diminue d'au moins 50% le nombre des mémoires à traiter. La chancellerie a pris en compte directement et paye le téléphone, les expertises biologiques ADN et un certain nombre pour éviter les retards de paiement. Et ce qui reste, eh bien, c'est uniquement de l'insuffisance de crédit. C'est beaucoup moins, à mon avis, maintenant, dans les capacités de traitement des équipes, mais qui ont sous le coude des mémoires prêts à être présentés aux trésoriers payeurs et qui ne sont pas présentés, faute de crédit suffisant en face.
Je voulais juste ajouter que par rapport à cette difficulté de règlement des frais d'expertise au pénal, un expert a alerté certains de mes collègues en disant « je ne travaillerai plus pour vous », en gros. Et puis donc avant de transmettre les récriminations de cet expert à la Cour, qui ne pourra rien faire de toute façon, j'ai quand même voulu qu'on balaie devant notre porte pour vérifier s'il n'y avait pas des mémoires à certifier en attente. Donc on l'a vérifié. Donc c'était pas des mémoires à certifier en attente, c'est qu'on a effectivement 1500 mémoires certifiées en attente de paiement. Mmh. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'a vérifié. Des problèmes de dysfonctionnement en interne de choses qui ne seraient pas faites au niveau du tribunal pour transmettre en temps utile les mémoires au pôle Corus, qu'on appelle, au niveau de la cour ou pour leur règlement. C'est pas que le travail n'est pas fait avant. Maintenant, on sait que c'est parce qu'on n'a pas l'argent pour payer ce qu'on a certifié et qui donc serait prêt à régler. Voilà. Donc effectivement, pour les experts qui font du pénal, la seule possibilité, entre guillemets, de compenser un petit peu, c'est de demander d'avoir un peu plus d'expertise civile. Voilà.
Donc d'autres questions un peu hors sujet, encore que celle-là, elle est peut-être dans le sujet.
Moi, il y en a une qui m'intéresse, c'était de revenir sur le référé préventif, parce que c'est un type de référé qui est d'abord très utile. Il permet à l'occupant d'un immeuble de prendre ses garanties dans la perspective d'une démolition, d'une construction proche de la sienne. Mm-hmm. Mais c'est vrai que sur les délais, sur le coût, tout dépend de l'étendue de la mission. Et là, c'est peut-être plutôt aux avocats que je m'adresserai, pour leur dire de bien déterminer si c'est une simple photo, en disant ben, l'expert va passer dans les 9 caves autour, il va regarder, il va prendre des photos, et puis on va mettre ça de côté. Et en revanche, il y a des missions qui sont beaucoup plus complexes et qui demandent à l'expert de suivre en fait pendant tout le déroulement de la construction, notamment au moment où on va par exemple faire l'excavation et où il va y avoir des appareils de démolition qui interviennent, c'est là où il peut y avoir des vibrations et des phénomènes sur les immeubles. Donc là, c'est une mission qui est beaucoup plus complexe, puisqu'elle aboutira pour l'expert à se rendre à plusieurs reprises, et quelquefois jusqu'à la fin des travaux de construction, avant de déposer son rapport.
Voire d'installer des capteurs.
Ou des témoins, etc. Donc on voit bien que selon la nature de la mission, quelquefois c'est assez flou dans la rédaction. Et il faut bien savoir si on veut une photo ou si on veut un film. Si on veut une photo, bon, c'est assez simple, hein, c'est une des constatations. Je suis allé dans la cave, il n'y a pas de fissure, j'en ai pas vu. S'il y en a 2 ans après, on se dit, ben, c'est de votre faute. C'est quand même beaucoup plus simple pour l'expert. En revanche, je ne conteste pas du tout l'inutilité du film, mais celui-là, du coup, il est très cher. Et il dure très longtemps. Et il faut à ce moment-là prévoir, je pense, mais le demander aussi, des paiements intermédiaires pour que l'expert ne fasse pas l'avance de frais qui soit sur 5 ans ou 4 ans avant de pouvoir présenter une note d'intérêt. Le code de procédure civile lui permet de faire une telle demande. Et à mon avis, dans ce type de cas, ça peut être parfaitement envisagé et demandé. Il y a une prestation qui est fournie et qui est vérifiée par le juge que l'expert s'est rendu déjà à 5 reprises sur place ou 6 reprises et lui déconsigner ou ordonner le paiement d'une partie de sa note. Ça me paraît de bonne gestion.
Quelle est votre réserve sur la déconsignation? Parce que là, on n'a pas bien compris.
La déconsignation, le code de procédure prévoit 2 choses. L'état d'avancement des travaux, effectivement. D'autre part, les difficultés prévisibles. Donc, moi, je suis contre le fait qu'on travaille, comme en matière libérale et hors expertise, sur des espèces de situations. situation numéro 1, situation numéro 2, situation numéro 3. Ce n'est pas le cadre de l'expertise. Oui, non, non, mais je parlais sur l'expertise judiciaire. Hein. Je parlais sur l'expertise judiciaire. On n'est pas dans un cadre où on travaille sur des situations de travaux au fur et à mesure de l'avancement du travail de l'expert. Pour moi, la déconsignation, c'est état d'avancement et difficulté prévisible de la suite. Voilà.
Mais alors attention aussi, la consignation, lorsque l'entreprise qui a déposé cette consignation est en dépôt de bilan et en liquidation, la consignation ne revient même pas à l'expert. La consignation peut être saisie par le liquidateur. Et souvent, quand on est dans cette situation-là, il faut demander cette déconsignation, sinon on ne sera jamais payé. Alors, attention, hein, ça, moi ça m'est arrivé de demander une déconsignation parce que l'entreprise était en... Pardon, excusez-moi.
Oui, non, mais sur des cas très très particuliers, je n'ai pas dit que je n'envisagerais pas. Je dis que sur le principe, je ne travaille pas... Enfin, j'estime ne pas devoir travailler avec les experts judiciaires sur des situations. Voilà. Ce n'est pas situation numéro 1, situation numéro 2, situation numéro 3, au fur et à mesure de, l'état, de l'avancement des mois qui passent. C'est pas le,
non, non.
L'expertise judiciaire, ce n'est pas ça. L'expertise judiciaire, c'est on a une consignation, on déconsigne en fonction de l'état d'avancement, si c'est nécessaire, et de la difficulté prévisible des opérations à venir. C'est sûr que si ça fait 2 ans que vous travaillez ou 3 ans et que vous avez encore des... que vous avez déjà bien avancé, mais que vous avez encore au moins pour un an ou je ne sais pas d'expertise, je peux le comprendre. Ce que je dis, que je ne suis pas d'accord pour travailler, enfin pour déconsigner sur des situations comme en matière libérale ou autre, que, comme pourrait le faire un architecte au fur et à mesure de l'avancement des travaux en libéral. Voilà.
D'accord.
Et si on fait appel, par exemple, à un laboratoire en cours d'expertise, vous déconsignez le coût du laboratoire. Parce
bien sûr.
On ne fera plus appel. Quoi.
Bien entendu, il n'y a pas de souci.
Parfait. Oui.
Non, je voulais justement reprendre ce que disait à l'instant notre confrère Luchette, c'est qu'effectivement, des déconsignations, moi je les obtiens systématiquement sur présentation de la facture du laboratoire ou du sapiteur. Il n'y a aucune difficulté. En revanche, là j'ai actuellement, pour rebondir sur le référé préventif, c'est vrai que j'ai aujourd'hui un dossier ouvert sur lequel le rapport ne peut être déposé qu'après la réception des travaux. Ça, c'est dans l'ordonnance. Donc, bon, alors c'est vrai que j'ai pas un encours important sur ce dossier. J'ai fait mes premiers relevés sur les immeubles autour du lieu de travaux. Et puis, depuis, j'ai pas été resollicité. Mais la réception aura lieu que fin 2014. Et c'est un dossier qui est ouvert depuis un an et demi. Voilà.
Moi, j'ai une question à destination des experts. Il arrive qu'on me demande, qu'on me demande, dans le cadre d'une expertise, voire après qu'elle ait été ordonnée au fond, que ça puisse être demandé au fond, de redésigner l'expert pour vérifier, pour un contrôle de bonne fin des travaux. Moi, je sais que quand j'étais à Aix-en-Provence, les experts nous avaient dit « il n'en est pas question ». Donc, je voulais que vous le reprécisiez pour que ce soit dit clairement.
Déjà, notre assurance ne nous couvre pas. On n'a pas une assurance nous permettant d'être...
Oui. Le contrôle de bonne fin de chantier, c'est de la maîtrise d'œuvre.
C'est de la maîtrise d'œuvre.
Donc, de toute façon, en aucun cas, on ne sera associé à un contrôle de bonne exécution. Ce n'est pas dans notre compétence, donc on n'a pas du tout à y mettre le doigt.
Ce n'est pas de notre compétence et on n'est pas assuré pour le faire. C'est très grave parce que si on le fait et si justement des experts sont tentés de faire ce genre de choses, c'est très dangereux parce qu'ils mettent leur patrimoine en jeu sur des choses comme ça. Tout à fait.
Alors je suis content de vous entendre, madame, parce qu'Aix-en-Provence, la bonne fin, c'est parti de grâce et c'est moi qui en suis à l'origine. Parce que qu'est-ce qui se passe dans un contrôle de bonne fin? C'est que l'architecte, les entrepreneurs, les ingénieurs se disent « il y a un expert ». On le laisse faire et il endosse toutes les responsabilités et notre assureur, il est là, Jean-Claude Hamelin, je pense que tu confirmeras ce que dit le président de séance, ça c'est pas couvert. Donc, je suis désolé, mais il ne faut jamais accepter l'émission de bonne fin. Voilà.
Jamais, surtout jamais. On n'est pas des maîtres d'œuvre et on n'est pas assuré pour être maître d'œuvre. Attention.
Alors, ceci dit, c'est un train qui en cache un autre. Parce que il y a un autre problème par derrière qui est peut-être encore plus difficile, c'est celui d'évaluer les travaux nécessaires à la remise en état. Parce que là, l'expert, qui évidemment ne sera pas expert du contrôle de bonne fin, on lui demande souvent de dire combien ça va coûter et quelles solutions techniques préconisez-vous. Donc là, on revient finalement un cran en arrière. Et qui prend la responsabilité de dire, ben, avec deux étais, ça tiendra, ou en remettant ça comme ça, ça ira. Là déjà, il y a un maître d'œuvre qui doit être désigné.
Tout à fait.
Pour,
mais là, l'expert ne fait que donner son avis, et cet avis doit être repris par le maître d'ouvrage qui va déléguer son maître d'œuvre pour vérifier ce que l'avis de l'expert, et si le maître d'œuvre prend une autre solution, c'est sous sa responsabilité. Et s'il prend l'avis de l'expert, c'est également sous la responsabilité du maître d'œuvre. Ce n'est pas la responsabilité de l'expert. L'expert a émis un simple avis technique.
Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais je crois que c'est très utile de le préciser.
Tout à fait.
Parce que maintenant, je pense que le problème du contrôle de bonne a disparu. C'est une pratique des années 60-70 à laquelle il était mis un terme précisément parce qu'il y a eu des mises en cause d'experts sur la défectuosité de la technique qu'ils avaient préconisée et ensuite le piège s'est refermé. Mais on est retombé du coup sur qui fait quoi et qui commande le maître d'œuvre pour élaborer la solution technique et je pense qu'il faut être extrêmement précis
et
sur
prudent.
Les responsabilités, les échanges tels que vous venez de les souligner.
Ce sujet de la préconise, enfin ce terme qu'on voit souvent dans nos saisines, qui dit l'expert préconisera les travaux de reprise, les chiffrera, etc. Bon, dès lors qu'en matière d'expertise de bâtiment, on a un peu d'expérience, on lit entre les lignes. Évidemment, le juge veut être éclairé et les parties veulent être éclairées sur le coût des reprises. Bon, mais nous, avec un peu d'expérience, et même rapidement d'ailleurs, on ne tombe pas dans ce piège qui nous amènerait à prendre des responsabilités, un terme que les experts judiciaires ne peuvent pas dire, non, nous attribuer des éléments de fait qu'on ne voudrait pas prendre. Donc, on demande aux parties de nous amener les éléments. Alors, on sera consulté sur tel ou tel élément, et là, on va donner notre avis. Mais ce sont les parties qui amènent les éléments. Et en fait, en tout cas, on l'exige. Alors, c'est soit à travers un maître d'œuvre qui travaille. J'ai eu des dossiers sur lesquels j'ai fait contrôler par un cabinet de contrôle technique, pris en charge aussi par une des parties, le travail destiné à amener la réponse au juge. Voilà. Donc là, le dossier était assez blindé parce qu'il avait son cadre technique qui ne reposait pas sur l'expert judiciaire. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, comme on en est à essayer d'éclairer du mieux possible les juges sur ces missions de construction qui nourrissent comme si on avait un bataillon de missions des experts, eh bien moi je suis toujours attentif à un magistrat qui me poserait la question « Monsieur Texier, acceptez-vous que je vous accompagne dans vos expertises ou à une de vos expertises ?» Donc voilà, je vous lance l'invitation. Tous ces présidents, je vous lance l'invitation de me saisir en disant ben, « Monsieur Texier, celle-là, je vous ai désigné et en plus, je viendrai vous voir. »
À la prochaine expertise au Congo-Brazzaville, je vous emmènerai si vous le souhaitez.
Est-ce qu'on a encore une seconde ?
Si, on va prendre le temps, hein, de toute façon.
Vous avez raison, Monsieur le Premier Président, quand il y a des dossiers spécifiques en matière de référé préventif, il y a lieu d'être très attentif à la rédaction de la mission que l'on demande. Et il m'est arrivé sur un dossier de désamiantage d'un immeuble de grande hauteur, c'est-à-dire plus de 10 étages à la Défense, d'avoir pris le temps avec le magistrat et l'expert que je m'étais permis d'appeler auparavant, parce que c'est le spécialiste du désamiantage sur la Défense années 60, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, pour bien voir ensemble, à trois, à l'audience, la mission qui était nécessaire. C'est un cas particulier. Un cas particulier aussi, madame, en ce qui concerne la déconsignation. Cette opération de désamiantage, elle a été très longue à mener. Il y avait des voisins, des grands immeubles, d'autres, etc. etc. Et effectivement, l'expert m'avait sollicité en cours, m'en disant « Est-ce que vous voyez un inconvénient ?» Pas du tout, bien entendu. Et on a pu, parce que c'était un travail important. Il n'y a pas de, difficulté particulière. Il y a un travail important et de grande qualité qui méritait d'être spécifié pour l'expert. Et puis, dernière chose, j'ai une réserve. J'ai eu l'occasion, avec le Conseil national des compagnies d'experts de justice, d'intervenir au dernier colloque sur les délais. Et j'avais été sensible sur le fait que les parties aiment savoir tout de suite si l'expert prend ou pas sa mission, ce qui est tout à fait naturel. C'est son droit le plus légitime de dire non, je ne la prends pas, je ne suis pas compétent, ou ça va être, je suis surchargé, simplement. Mais ça, les parties ont besoin de le savoir très rapidement. Et le fait d'attendre la consignation pour avertir l'expert qu'il puisse alors seulement faire part de sa position, c'est une perte de temps qui peut coûter un mois et demi. Mais dans des dossiers un peu sensibles, vous avez une famille qui ne peut pas rentrer dans les lieux parce qu'elle vient de découvrir un vice caché dans un appartement, ça rend les choses tendues. Et donc, à l'époque où on évoque tous la communication électronique, je pense que tout peut être fait presque simultanément. Donc, l'ordonnance est rendue, l'expert est avisé immédiatement. Il sera ensuite avisé par communication électronique de la provision. Il saura qu'il pourra commencer. Mais il aura pu dire avant, je la prends ou je ne la prends pas. Voilà, c'était une petite observation.
Peut-être juste une seconde. On n'a pas abordé ce matin le problème du coût de l'expertise pour les litiges de faible importance. Je crois qu'on avait un certain nombre d'experts automobiles et il y a beaucoup de problèmes qui affectent les véhicules d'occasion,
oui,
par nature, qui sont sensibles à avoir une panne pour lesquelles les clients, en général, les acheteurs, estiment qu'ils ont été bernés et ils demandent une expertise. Alors, on voit très bien que sur des voitures compris entre 6 et 10 000 euros, que le coût d'expertise, surtout si on envisage, comme vous le dites, des expertises de pièces, va dépasser le
prix
même,
de la
le coût même du véhicule. Donc ça, c'est un problème très difficile à régler, parce que si les parties veulent dépenser, pour une affaire de principe, 15 000 euros dans le cadre de l'expertise, pourquoi les en priver? Je crois qu'on est plutôt là dans un problème de les prévenir et de les aviser, en disant, ben certes, le véhicule vaut 6 000 euros, vous voulez dépenser 15 000 euros d'expertise, très bien, si vous le souhaitez, allons jusqu'au bout et faisons-le. Mais il faut être sûr qu'ils vont être capables de payer ensuite et donc de provisionner. C'est un problème assez, assez difficile et récurrent, notamment en matière d'automobile. Le deuxième variant de ce type de dossier, ce sont les dossiers dans lesquels les parties veulent aussi une affaire de principe. Je pense à, par exemple, une source d'eau qui tombe d'un bassin versant sur un autre, et le voisin du dessous est fou furieux et fait un procès pour obtenir des dommages-intérêts. La partie adverse dit, bon, ben, qu'à cela ne tienne, on va faire une étude géologique. Alors, on fait une étude géologique, puis après, on dit, ah oui, mais c'est passé, on n'est pas allé assez profond, et je demande une autre expertise. Et au bout du compte, l'expert qui, en l'espèce, s'était laissé embarquer par ces demandes croisées du demandeur et du défendeur, présentait subitement à la fin une note absolument astronomique pour les différentes études géologiques extrêmement complètes qu'il avait faites, et les parties restaient bouche bée devant la somme qui était demandée. Donc là aussi, sur un problème très simple, on s'aperçoit qu'il faut que l'expert soit très, très précis sur le montant des chiffrés des demandes des parties pour leur dire, moi je veux bien faire, si vous voulez, une étude géologique qui va durer, qui va être de tel prix, afin qu'ils le sachent.
Tout à fait. Il faut informer en permanence les parties du coût estimatif de l'expertise, c'est clair, et au fur et à mesure. Et notamment, quand on fait des études avec un laboratoire, demande des devis et on fait valider les devis, on les fait accepter avant d'engager la dépense, ça c'est clair.
Merci à tous.